Bah, par exemple, les lacs du Connemara. Mmh. Tout le monde maintenant trouve ça ridicule, bien sûr. J'en sais rien. Mais à l'époque, c'était genre entre guillemets, alors pas tout à fait, mais entre guillemets, c'était le Anima de l'époque. Ouais.
La scéno en moins, wow, quand même.
Okay. Non, mais vous voyez, ça va être la miniature.
Ça va finir en short, ça,
Blue. Peut-être pas les lacs du Connemara, mais
est-ce que tu vas avoir des problèmes, Joachim? Très bien.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous. Je suis avec Daz.
Oui, Daz. Salman, c'est également le podcast des passionnés de lancement.
C'est vrai.
Car à chaque fois, tu lances de manière dynamique
mais
et,
c'est le...
et joviale.
C'est important, Daz.
Mais oui, c'est vrai.
Il faut lancer
vrai.
Une émission.
Ouais. Surtout qu'on lance aussi rien, puisque c'est la fin de la saison bientôt.
C'est vrai. Mais.
C'est fou, ça.
Il reste encore quand même quelques épisodes. On se fera peut-être une petite pause en août, un truc comme ça. Mais...
Oui, bah, on se la fera, c'est sûr, même, je pense. Oui, très bien.
Mais rassurez-vous, vous aurez plein d'épisodes avant ça. Hein, tous les 15 jours, de toute façon. Daz,
oui.
À chaque fois, de nouveaux invités.
Passionnant.
Passionné.
Ouais.
De nouveaux sujets.
Ah, incroyable également. Alors, encore une émission de jazz.
Non, c'est vrai.
Ah, ok.
C'est vrai, on a fait pas mal d'émissions de jazz dernièrement. Non, là, on va parler de musique électronique. On est avec un très beau trio, Daz. Okay. Puisque nous sommes avec Joris Delacroix. Ça va, Joris?
Ça va, j'adore les lancements aussi.
C'est vrai?
Ouais, très beau.
Tu veux faire un lancement pour cette émission?
Non, je fais que les lancements de fusées et tout.
C'est vrai? Très bien. Ça commence bien. On est aussi avec Joachim Pastor.
Salut.
Ça va, Joachim?
Bonjour.
Tout va bien. Écoute, tout va bien. On est hyper heureux de vous accueillir puisqu'on est également avec alors, Victor. Est-ce qu'il faut dire vitesse? Est-ce qu'il faut dire vitamine? Est-ce qu'il faut dire grand V? Est-ce qu'il faut. Trop d'alias, Victor?
Vitesse et grand V.
Vite assez grand.
Voilà,
mais pas Victor, du coup.
Okay. Victor, c'est ce qui englobe le
okay.
tout.
Oui, et alors, il faut que je dise quand même que tous les trois, vous produisez de la musique électronique. Tous les trois, vous êtes... Tous les trois, c'est dur à dire, hein,
tous les trois.
Vous êtes DJ aussi. Et je vais vous présenter quand même rapidement. Joris, Joachim, je vais vous présenter ensemble parce qu'il se trouve que vous êtes dans un projet commun en ce moment.
En ce moment, oui.
Ouais, bah parce que vous avez aussi votre carrière propre.
Ah oui, on est des vieux, nous.
Bah ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 15 ans que vous êtes actif, c'est à peu près ça. Mm-hmm. Fin année 2000, vos premières sorties vraiment officielles.
Ouais. Moi, je compte le moment où j'ai arrêté de bosser pour faire que de la musique, et c'était en 2011, donc effectivement, okay. Ça fait 15 ans.
Ouais. Toi, Joachim, c'est à peu près ça aussi.
Ouais, moi, première sortie, je crois, ça doit être 2008. Ouais. Mais entre ta première sortie et le moment où tu commences à
vivre
dedans, quoi, vraiment, ouais. Proprement, ouais, je sais pas, moi, ça devait être peut-être 2012, 2013, un truc comme ça.
Ouais. Il s'est passé plein de choses, Daz, entre ces lancements, et la formation de Pacte, qui est donc votre projet. Ah ouais. À trois, d'ailleurs, Pacte, puisque je rajoute qu'il y a aussi Théo, T-E-H-O, ouais. Avec vous. Bon, qui est, on le salue, malheureusement, il n'est pas avec nous. Ouais.
Mais vous allez. Vivant, hein, il est toujours vivant.
Ouais, ouais. Salut mon pote.
Vous allez représenter Pacte pour Théo. Et comme je le disais, producteur de musique électronique, DJ, vous êtes des figures de la musique électronique en France, notamment dans des esthétiques techno-mélodiques, house progressive, deep house. Ça vous convient à peu près, ces esthétiques, ces oui. étiquettes?
Après, ça évolue avec le temps, évidemment.
Bien sûr.
Mais oui, c'est là. Ouais. Là, c'est ça.
Et bon, que ce soit en France, mais aussi dans le monde, je le disais, tous les deux, plus de 15 ans de carrière. Pas mal d'albums, enfin plusieurs albums, beaucoup d'EP surtout, beaucoup de singles, énormément de singles, plein de collabs aussi, de remixes, ce genre de choses. Et le parallèle entre vous deux, d'ailleurs, il s'arrête pas là, même si vous avez commencé déjà à peu près au même moment, vous avez quelques points communs dans votre musique, vous avez release pas mal sur le même label, Armada, qui ouais. est le label d'ailleurs de Armin van Buuren, grosse star de la musique électronique dans le monde. Daz, Joris, Joachim, c'est des millions et des millions de streams sur les plateformes.
Oui, mais tu sais que ça ne veut plus rien dire.
Ouais, non, mais quand même. Voilà. Ça dit un truc. Joachim, genre, c'est même en centaines de millions si on cumule les streams.
Ouais. J'aime bien parce que.
Sur Spotify, on doit être à 320 millions, un truc comme ça.
Ouais. Mais...
Tu crois ou vous regardez vraiment pas, genre, vous en foutez de ces métriques-là?
Ouais. Bah, non, en fait, souvent, ce que tu regardes, c'est les derniers, un peu les derniers trucs.
Pour voir
que
si ça marche. Ouais.
Mais je sais pas, c'est assez rare. C'était pas tous les matins à ouvrir et à dire ouais, putain t'as vu ça fait un peu presque partie, enfin pour moi ça fait presque un peu partie du passé, quoi, tu vois, je regarde pas trop
C'est bon.
Non, moi je regarde que les relevés des royalties, c'est quand même...
ouais, du coup c'est triste parce que Spotify on connaît, enfin les plateformes
on a ouvert un Tipeee
aussi, ah non quelle horreur Bon, donc ça fait forcément des millions de streams, ça fait plusieurs hits, et notamment des hits club, parce que là je parle des streams, mais en fait le cœur de votre métier, ça reste quand même le club, les tournées dans le monde entier. Et justement, Pacte, c'est un projet où à la fois vous produisez de la musique avec Théo, à la fois c'est un label, vous montez aussi votre propre label, ouais. Et c'est aussi en fait un projet club, enfin en tout cas un projet live, puisque vous tournez avec en plus un principe hyper intéressant, on le développera, des contrôleurs à disposition du public, vous faites de la musique avec le public, à tout moment ils peuvent interagir avec vous et tout, hyper intéressant. Ouais. Bon, il faut que je présente aussi Vitesse Grand V.
Salut.
Re-Victor. Mais toi, tu es aussi producteur de musique électronique, DJ, on peut préciser aussi batteur en plus. C'est d'ailleurs ta formation initiale, tu viens plutôt des musiques acoustiques, rock, funk, tu as eu plusieurs groupes, et puis tu t'es mis à la prod. House, techno.
Un peu des deux.
Ouais.
Ouais, quand on commence la production, on touche un peu à tout. C'est ce qui est sympa de pouvoir voir un peu tous les styles et se préciser dans un style qu'on aime. Mais c'était plutôt house et techno, ouais, au départ.
Tes premières releases, tu te rappelles, c'est quoi à peu près? On est à quelle année?
2018.
Ouais.
Fin 2017, début 2018. J'ai commencé à produire entre début de l'année 2017.
Ouais.
Et donc, mes premières releases sont arrivées à peu près un an après.
Et je le disais, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as plein d'alias.
Oui.
Donc, le principal est Vitesse, Vitamine, Grand V, Flamant Rouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec chacun de ces alias, tu essaies de travailler des esthétiques différentes. Tu as un peu divisé, entre guillemets, ton travail en disant, voilà, bah, là, ça représente plutôt cette esthétique, ce rapport à la musique. C'est un truc qui t'est venu hyper naturel. On le développera évidemment.
Naturellement, hein, mais... comme c'est des univers assez différents en termes d'esthétique musicale, je me suis évidemment dit à un moment que c'était peut-être censé de séparer les projets. La principale séparation, c'est vraiment entre Vitesse, où c'est de la house progressive, tech house, et Grand V, où c'est vraiment des BPM plus élevés entre la trance et l'eurodance. Donc c'est sûr que ces deux esthétiques musicales sont assez différentes. Mmh. Et même si dans des sets, j'aimais bien un peu mélanger les deux, les types de soirées où tu joues dans les clubs ou dans les festivals, il faut quand même, si c'est un festival techno ou house, il faut quand même rester dans un certain type de ouais. musique. Donc j'ai jugé bon quand même de séparer les deux projets. Et derrière, Flamant Rouge, Vitamine, c'était un peu des projets et des noms bonus pour me permettre de faire d'autres types trucs de musique. Ouais.
Quand il y a un morceau qui ne fit pas, il fait bon, ça c'est Flamant Rouge.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça me permet de faire vraiment ce qui me plaît sans me dire justement est-ce que ça va fitter avec l'esthétique de Vitesse, ouais. est-ce que ça va être possible avec tel label ou quoi. Non, du coup, j'ai créé ça pour vraiment pouvoir être libre d'aller où je veux un peu dans la musique.
C'est intéressant parce que cette idée un peu d'étiquette, entre guillemets, c'est un truc qu'on va développer pas mal dans l'émission. Je sais que par exemple, tu vois que Joris, à un moment, il y a eu un petit switch dans sa carrière ces dernières années où il a commencé à augmenter les BPM justement pour être un peu plus club, etc., notamment pour les lives. Toi, ton approche est plutôt de dire bah, ça, je le fais avec un autre alias. Enfin, on discutera un peu tout ça parce que c'est intéressant.
J'ai quand même augmenté les BPM aussi.
Qui a raison, quoi, c'est ça, quoi.
La question, c'est qui n'a pas augmenté les BPM.
C'est la question. Qui n'a pas augmenté
Il y a eu vraiment
BPM.
Un mouvement un peu ces derniers temps. Ah, c'est intéressant. Et je termine avec toi, Victor, en disant que ce qui est intéressant, c'est que tu as une approche aussi du live particulière. On disait qu'avec Pacte, ils essaient d'interagir avec le public. Toi, tu as ce côté, le fait d'être batteur, ça ouais. t'a poussé à intégrer dans tes sets, y compris dans les sets hyper longs. Genre, tu peux jouer pendant 6 heures ouais, et quand ça. Même, il va y avoir de la batterie, tu vas faire venir des musiciens, il va y avoir un côté un peu improvisation en plus du côté électronique. Quoi.
Absolument, et c'est ce que j'ai fait récemment. Ça me manquait vraiment le côté scène d'être avec des musiciens sur scène. Quand on fait du live, on peut se sentir assez seul parfois ou en DJ set sur scène, et je voulais retrouver un peu le plaisir de jouer de la musique. Donc j'ai fait ça au Cabaret Sauvage, au Trabendo, sur les formats live longs. Mmh. Et comme c'est 6 heures, ça me permet d'avoir le temps de faire un peu différents styles. Et donc j'ai ramené une batterie électronique sur scène et j'ai invité deux amis guitaristes et bassistes à jouer avec moi. On a fait ça pendant 25-30 minutes. Et j'étais super content et ça a amené encore un autre univers au live. Donc j'ai vraiment...
Du coup, c'est-à-dire que tu fais 6 heures de live
nom. Ouais, je fais 6 heures
ah ouais,
de
putain,
live.
Balèze.
Et t'as re-rechangé de nom du coup en faisant venir des musiciens
non, non, c'est bon. J'arrête avec les changements.
Il y a un timetable où il y a plein, tu crois, ouais. qu'il y a plein d'artistes.
En fait, c'est le même.
C'est que lui. Il change de t-shirt entre chaque set.
Non, en vrai, il peut faire un festival tout seul.
Non, mais c'était vraiment pas pour la performance ou le record en se disant je vais jouer pendant... Mais je trouvais ça hyper intéressant et hyper cool, littéralement d'ouvrir, en fait, d'être la première personne à jouer. Tu joues de l'ambiance, plein de choses différentes avec des BPM beaucoup moins élevés. Et ensuite, progressivement, on va vers de la micro, de la house, de l'électro, pour finir à 150 ou 160 BPM avec de la trance, de la psy-trance. Et j'aime vraiment l'évolution de ces soirées-là. Et ça me plaisait beaucoup et c'était un challenge assez cool. Ouais. Et donc voilà.
De toute façon, on va développer tout ça. Je termine en disant quand même que tu as aussi ton propre label.
Oui.
Tout comme Pact est un label, toi aussi, tu as décidé de monter ton propre label. On comprend que tu as une carrière plus jeune que celle de Joachim et Joris, mais déjà très productif, plusieurs albums, plusieurs EP. Alors en plus, avec tous tes alias et tout, je raconte même pas pour s'y retrouver. Sur le Discog est complet.
Très, très bien, très, très bien.
Bon, d'ailleurs, ton dernier album, Reframed, il est sorti là tout récemment, en avril.
Absolument, ouais, début avril.
Bon. On va justement discuter de tout ça. À la fois, il y aura une partie sur live, mais j'aimerais bien qu'on commence avec un peu ces esthétiques, parce qu'on en a assez peu parlé dans cette émission. Tout ce qui est techno-mélodique, deep house, house progressive et tout. C'est une musique qu'on connaît assez peu, même, pour être honnête, ou en tout cas, dont on n'a jamais vraiment parlé dans l'émission. Je sais que toi aussi, Victor, c'est des musiques qui te parlent. Vous faites pas exactement la même musique, mais il y a quand même des univers communs et tout.
Est-ce qu'on pourrait s'écouter des trucs, histoire de...
Ah bah de ouf.
Vraiment placer...
C'est quoi, on commence avec peut-être... Pour l'instant, il y a un seul morceau vraiment Pact. Il y a eu des lives hein, avec des morceaux remixés, des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais un morceau vraiment composé à trois, il y en a un seul, on peut s'écouter un extrait.
Allez, fin.
Vas-y, bon. Ça s'appelle Unify. En plus, il y a un moment où ça s'énerve un peu, donc je pense que j'avancerai dans le morceau. Si ça vous va, si c'est pas trop sacrilège.
C'est vous les patrons.
C'est votre émission, les gars.
Allez, on recommence, c'est parti. Unify, Pact. C'est un petit peu, parce que sinon c'est un morceau qui prend son temps.
On va s'endormir alors.
non, pas du tout. Regarde, je vais mettre par là, comme ça, hop, c'est parti. Je pense que la montée, là, vous l'avez pensé pour le live.
Ouais, de toute façon, le morceau, il était fait pour le live. Ouais. C'était pour ça que ça prend son temps.
Ouais.
Mais c'est après la sortie, on s'est dit, peut-être qu'on avait dû l'éditer quand même.
Ouais, un petit radio-édit.
Ouais, parce que c'est vrai que pour la rétention d'audience, tu vois, la première minute, il faut quand même la passer, quoi. Tu vois, c'est pas très... Mais bon, après, on fait ce qu'on... Enfin, le but du label, c'est de faire un peu ce qu'on veut. Quoi.
Ouais.
Quand tu essaies de calibrer ta musique, c'est souvent là que ça marche pas.
Ouais, c'est là que ça devient un problème quand tu penses à l'édit, quand est-ce que ça commence ton premier drop. C'est des questions qui sont pas naturelles quand tu fais de la musique.
Mais il y en a quand même pour autant.
Ouais,
des drops et.
Oui.
Non, mais en fait, le truc, c'est que souvent, je pense qu'on peut s'en rend compte, en fait, avec le temps, c'est que les tracks qui marchent le mieux, souvent, c'est ceux que tu as fait le plus vite. Et quand tu as eu la bonne inspiration, tu l'as fait vite, boum, ça marche, ça va facile. Tu vois. Le track où tu as réfléchi, ça devient un truc scientifique.
Mais c'est vrai que celui-là, on l'a fait super vite.
Celui-là, on l'a fait vite quand même. Ouais. On s'est foiré sur le... non, mais c'est vrai que bon, là, il y a calibré quand même. Là, c'est vrai qu'une minute d'intro sur Spotify, c'est vrai que c'est un peu.
Ouais, mais c'est vraiment la façon dont on joue en live, vu qu'on prend le temps pour faire les montées, vu qu'on est à trois, on a le temps de faire ces choses-là. Ouais. Et c'est vrai qu'on a gardé cette dynamique-là, mais même moi aujourd'hui, je le réécoute, je me dis, même pour moi, c'est un peu long.
C'est intéressant parce que derrière aussi.
C'est bon pour la promo quand même.
C'est clairement un morceau trop long. On aurait dû le retravailler, faire un nouvel edit.
Mais il est bien, sinon on est quand même content.
Hein. Après, il fait 5 minutes, je veux dire,
Mais justement aussi, c'est un morceau qui prend son temps et tout. Et je pense que c'est lié aussi à peut-être des codes, tu vois, des scènes d'où vous venez, de ce qui vous a forgé et tout. Parlons de ces codes, ces esthétiques, parce que. Il y a ce côté un peu, je disais au début, j'y vais toujours avec des pincettes, tu vois, Daz, le côté est-ce que ça vous va si on parle de techno mélodique, de magie, parce qu'en fait c'est compliqué et en même temps on a l'impression que souvent vous considérez que par exemple c'est un passage obligé ou pour vous vendre, si je puis dire, pas joli mot, mais tu sais, en tant qu'artiste, vous présenter, en tout cas au public, vous avez besoin parfois de mettre un mot en termes d'esthétique sonore, quoi. Il y a ce besoin, vous le ressentez?
Les gens en ont besoin. Ouais.
C'est les gens, ouais. Et ceux qui présentent, nous, on a souvent du mal à mettre des mots sur notre musique, mais les gens ont besoin de presque nous mettre dans une case. Ils font ça, ils font ça. Ça les rassure un peu. Mmh. Alors que nous, le plus dur, c'est de dire si c'est mélodique, progressif, dégasse. Enfin, on sait qu'il y a des codes qu'on a, mais. C'est difficile de.
C'est vrai que moi, j'aime pas trop les étiquettes d'une manière générale, ça m'emmerde un peu. Ouais.
C'est ce qu'on dit souvent les artistes.
Mais c'est surtout que c'est différent pour tout le monde. Moi, tu me dis technomélodique, j'en ai une certaine idée. Mm-hmm. Et puis quelqu'un d'autre, tu dis technomélodique, si ça se trouve, ça sera pas du tout pareil. Enfin, ça sera quand même pas forcément pareil. Je sais pas, tu leur dis technomélodique, ils vont penser à Anima, tu vois. Mm-hmm. Moi, tu me dis technomélodique, je pense pas du tout à Anima.
Tu penses à qui, toi?
Je sais pas.
T'as quelques refs?
Pacte. Joris de la.
Non, moi je pense plus Kalbrenner, ce genre de profil. Ouais.
Bon, en fait, c'est suivant les années. En fait, c'est pareil que la tech house. La tech house des années 90-2000, elle est hyper différente de la tech house plus actuelle.
Ouais.
Donc chacun a, c'est vrai, sa vision de.
Même moi, je le vois dans mes playlists de mix là, sur les clés USB. Tu vois, j'ai le dossier tech house et si je remonte, c'est vraiment pas du tout la même chose au début et maintenant.
Mais tu fais quand même des classements toi aussi. Enfin, t'as aussi ce besoin en tant que DJ de dire un peu l'âge dans tes
étiquettes. Après les styles, ça existe. Les styles, ça existe. Je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'à un moment donné t'as fait un morceau TK parce que tu peux pas faire de la techno, que tu peux pas faire de la house. Tu vois,
après tu changes de nom et puis.
Ouais, mais quand même, c'est ce que je voulais quand même rebondir là-dessus tous ces alias là. Je trouve que c'est très très intelligent de faire ça. S'il y a un conseil que je pourrais donner aux gens et quelque chose qui m'a un peu desservi moi dans ma carrière solo, c'est que pareil, moi j'adore plein de styles de musique, mais vraiment ma playlist Spotify, lui il appelle la playlist des enfers, quoi. Ça passe du classique à du death metal à enfin voilà, bon. Et en fait pour te vendre, t'as besoin d'avoir une identité très très malheureusement, mais très très calibré, très très presque de faire toujours pas la même chose, mais d'avoir vraiment ton style à toi. Et tu fais, faut que tout soit très très homogène, tu vois. Faut que ton style aille avec ça, avec ci, faut que ton Instagram soit homogène. Faut
là,
que
tu parles homogène. De la musique en général ou de votre scène, vous spécifiquement?
Tout. Ouais. Non, tout en général, tout.
Tu vois. Okay. Dans la scène électronique.
Et souvent, si je te dis ZZ Top, tu vois des mecs avec des barbes. Si je dis Daft Punk, tu vois des mecs avec un casque. Si tu vois, si je dis Deadmars, tu vois, en fait, chacun a son identité très 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 forte, tu vois. Et souvent, il y a un peu ce gimmick, tu vois, d'avoir un truc. Et donc, si tu aimes plein de styles de musique et que tu te mets à faire un jour quelque chose de très 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 lent et un jour de la techno machin, et ben souvent ça te
dessert de...
ouais, ça te dessert sur le très long terme. Ça peut être bien parce que tu vois, tu peux à force avoir rassemblé des gens qui seront compatibles avec ça, mais sur le court moyen terme, tu vois, peut-être que le mec il adore parce que t'as fait de la techno et là tu fais un truc à la Moderate et puis le mec il va dire ouais, mais c'est pas... et c'est un peu normal, tu vois. Si tu vas au McDo et que les mecs ils te servent du poisson et du caviar, tu vas te dire attends, ça c'est pas la DA de McDo, quoi. Tu vois, tu vas au McDo pour le McDo, quoi, tu vois.
Ils peuvent le faire
après si c'est le prix un McDo, moi j'y vais régulièrement.
Non, mais ça, c'est Internet qui veut ça. C'est Internet un peu qui force à mettre des étiquettes, des cases.
Je pense que c'est, ouais, c'est comme tu le dis, c'est, on est tellement surchargé d'informations aujourd'hui que si tu mets pas des repères, en fait.
Ouais, les gens, ils font pas l'effort. Ouais.
Est-ce qu'il y avait pas les bacs aussi, historiquement, tu vois, où il y avait besoin aussi de classer déjà avant Internet, tu vois.
Il y avait les bacs, mais tu sais, la notion de se dire, il faut que la musique soit en phase avec ton profil Instagram, qui est en phase avec, tu vois, l'image que tu as, 100% Internet.
C'est quand même quelque chose qui était fait à l'époque. Par exemple, The Police, tu vois, c'était un groupe qui avait été presque fait par des vendeurs de vêtements. Mmh. Tu vois, c'est un groupe qui a été sponsorisé.
The Police, ah ouais?
Ouais,
parce qu'il y a le côté Sex Pistols,
mais parce qu'ils voulaient vraiment sponsoriser, tu vois, ils voulaient changer de style, ils voulaient vendre des trucs, tu vois. Donc en fait, même des groupes avant étaient déjà très, très, très calculés.
Très marketés, quoi.
Oui, mais c'était des groupes qui. J'entends, mais c'était des groupes qui vendaient énormément, alors qu'aujourd'hui, tu démarres la musique. Faut déjà que t'aies ton projet.
Comme s'il y a une sorte de presse de professionnalisation.
Ouais, c'est ça.
Comme si les gens, je sais pas, moi, peut-être que dans les années 70, t'avais moins accès tu pouvais pas aller sur YouTube voir un tuto ou encore mieux avoir ChatGPT qui va t'expliquer, ben non, faut que tu fasses ça et ça et ça. Donc les gens faisaient de la musique et puis de temps en temps, ils étaient pris en main par une maison de disques qui allait faire ce taf et dire, mec, on va te mettre un costard comme ça, on va te teindre les cheveux en rouge et tu vas devenir...
Là, on voit sur certains artistes qui, genre, rebootent un peu leur carrière et passent sur les réseaux pour effacer tout ce qu'ils ont fait avant.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, pour vraiment que les gens tombent sur ce qu'ils font actuellement, parce que justement, tout ce qui est antérieur, ils considèrent que c'est pas eux, tu vois.
Peut-être que Victor, il peut nous parler justement de sa démarche un peu plus. Est-ce que t'avais déjà conscience dès le début, parce qu'en plus, ta carrière, elle est quand même relativement jeune, très vite, tu t'es dit, il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens qui vont m'écouter. C'est pour ça cette idée aussi des alias,
tu vois. Pas au départ. Au départ, c'était un peu le cliché de je veux produire la musique que j'aime et je la joue. Donc, je pouvais passer de track house à 130 BPM à des tracks vraiment eurodance, trance à 150 pendant un même live.
Et avec le même nom.
Avec le même nom, c'est vrai. Ouais. Et petit à petit, c'est vrai que surtout dans les styles de soirée où tu vas jouer, les soirées aujourd'hui sur la scène électro sont très très orientées. Donc tu sais que tu vas aller dans une soirée house, tu sais que tu vas aller dans une soirée plutôt techno mélodique. Donc les gens en fait s'attendent à avoir un certain style de musique et je me suis rendu compte que c'était peut-être plus judicieux de séparer par des projets les différents styles de musique, mais j'ai jamais commencé en marketant tout ça en me disant bon là je vais faire ça, ce sera plutôt house et je vais faire ça comme DA et mon autre projet Grand V ce sera plutôt ça. Non, j'ai vraiment commencé par vraiment la musique à proprement parler et derrière je me suis rendu compte que c'était important quand même d'avoir une identité assez claire pour les promoteurs aussi. Les promoteurs eux doivent savoir à quoi s'attendre. C'est eux aussi qui prennent quand ils te bookent sur une soirée, ils font un booking avec d'autres artistes, donc ils essayent de faire matcher des styles musicaux. Et donc évidemment, si tu passes de choses très différentes à d'autres styles, ça peut marcher et il y en a de plus en plus qui le font. Mais les soirées aujourd'hui sont quand même assez
segmentées, quoi.
Plutôt segmentées.
Ouais. Plutôt segmentées. Du coup, si toi tu fais un live de 6 heures, est-ce que si je vais voir Vitesse? Je verrai pas.
Tu vas absolument aussi voir Grand V. Bah, okay. Ouais, absolument.
Quand même, tu t'en profites
bien
pour
sûr. Ouais.
Bon, ça tient pas trop ton truc.
Ça, c'est pour ça que je me permets de le faire, comme je suis le seul à jouer. Ouais. Et j'ai la chance d'avoir créé une communauté qui est habituée à ça. Au départ, si je lance mon projet et que je commence dans la musique et que je dis aux gens, je vais faire des lives de 6 heures qui vont passer de house à techno et que personne connaît, ça va être plus compliqué. Mmh. J'ai réussi à créer des communautés avec Vitesse et Grand V. Surtout en France. Et donc, les gens savent à quoi s'attendre quand je leur propose un live de 6 heures.
Et tu sais s'il y a des gens qui écoutent que Grand V et pas Vitesse?
Ouais. Absolument. Ouais, il y en a qui me le disent. Ils me disent « Ah, je préfère Grand V. » Ils écoutent de Vitesse. Cool. Et aussi, quand je commence à jouer, la première heure, il y a des gens qui me montent des tracks de Grand V, donc des tracks à 150 BPM, alors qu'il est minuit, une heure et... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui viennent pour un style de musique. Et c'est normal, de toute façon, on ne peut pas attendre du public qu'il aime tout ce que tu vas proposer. Mais
Et puis, j'imagine qu'il faut distinguer le côté... Il y a les releases et le live. C'est-à-dire que peut-être que d'avoir tu vois, un truc très identifié là, sur telle release, c'est avec tel pseudo, parce que c'est telle esthétique et tout, ça a du sens vraiment avec son propre Instagram peut-être, absolument, son propre visuel, etc. Puis par contre, le live, parce que tout le monde sait quand même que c'est toi derrière tout ça, le live, lui, les choses se mélangent un peu plus.
Il y a plus de liberté.
C'est la règle du live.
Ouais. C'est ce que je voulais avoir en faisant du live, justement, c'est avoir de la liberté. Et ce format de live de 6 heures, enfin, il n'est pas toujours de 6 heures, parfois il est de 5 ou 6. J'ai déjà fait 7, parce que je me suis fait avoir par un changement d'heure en fait, c'est pas minuit 6, enfin c'est minuit 6, mais tu vas faire 7 heures. Mais oui, c'est ce qui est cool, je trouve, dans ce format-là, et c'est ce que les gens apprécient quand ils viennent, j'espère, c'est qu'il y a une liberté dans les styles de musique. Quoi.
Cette discussion, elle peut nous amener à un autre truc, parce que, ok, on a capté le truc, les étiquettes, les artistes n'aiment pas trop ça, n'empêche que c'est un peu son utilité. Joris, il nous a dit, ok, ouais, même en tant que DJ, c'est vrai que je classe un peu mes trucs et tout. Il y a quand même une dimension non négligeable dans les étiquettes, c'est de s'inscrire dans une scène, et donc ça veut dire avec d'autres gens, ça on l'a compris, mais aussi dans une histoire. Et puis dans des codes aussi, comme on compose sa musique, etc. Donc c'est quand même pas anodin non plus de dire, moi je fais de la techno mélodique par exemple, c'est peut-être que je m'inscris à la suite de mecs qui l'ont fait avant quand même, et que
tes influences, quoi.
Exactement. Mmh. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Est-ce que par exemple vous connaissez un peu l'histoire autour de ces musiques, vous, des musiques que vous pratiquez, des mecs qui étaient là avant vous, des pionniers, comment ça naît et tout?
Oui, bien sûr.
On peut en discuter un peu genre techno mélodique. Parce que techno, ok, on voit, alors il y a plusieurs technos, mais techno de Détroit plutôt, ok, les origines et tout, États-Unis, techno mélodique, ça débarque après, ça.
Moi, personnellement, il m'est arrivé de deux pays, c'était de l'Allemagne et de l'Angleterre. Okay. L'Allemagne avec des artistes style Paul Kalkbrenner, qui était déjà là à l'époque. Enfin, je parle de ça, c'était vraiment entre 2005 et 2010, moi, que je me suis pris ce style.
Qu'on associe parfois à la minimale, si je dis pas de bêtises.
Oui, mais ça, ça venait de la. En fait, c'était ça. Ça venait de ce mouvement qui n'était pas de la vraie minimale, qui était de la techno minimale, on va dire. Okay. Parce que la vraie minimale, c'est faut s'accrocher, quoi.
Ok.
Et dans ce mouvement de la minimale, donc t'avais ces artistes, et Stéphane Bodzin aussi qui représentait bien le truc, Marc Romboy aussi à l'époque qui était assez présent, et
Extravelt, tout ça.
Ouais, Extravelt, et ça j'allais y venir. Et moi, une période qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est ce qui venait d'un label qui s'appelait Border Community, okay, qui est un label anglais qui n'existe plus aujourd'hui, avec des artistes style Nathan Fake, James Holden, etc. Avec ce fameux titre Skyway Pink, qui est un peu pour moi l'hymne de la minimale mélodique de l'époque, tu vois. Et moi personnellement, ça m'est arrivé comme ça.
Oxia Domino, tu vois, qui a été un des premiers trucs un peu techno.
Mais le truc, c'est un raz-de-marée, Oxia Domino.
Encore une fois, enfin, on va pas parler lui. Mais encore une fois, techno, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je considère. Parce que techno, ça veut dire musique technologique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Okay. On peut presque dire que Kraftwerk, c'est un peu de la techno, tu vois. Mm-hmm. Parce que c'est. Bon,
si on fait fi de l'histoire et des aspects aussi un peu sociaux et culturels d'une musique, c'est quand même important aussi.
Bah parce que t'as la techno, t'as la techno de Détroit et la techno de Berlin, même... c'est pas, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est pas le même BPM, enfin c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Puis même aujourd'hui, ce que la jeune génération va appeler techno, c'est parce que moi j'appelais techno. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, ce que la jeune génération va appeler techno, pour moi c'est plus art techno, tu vois. Ouais. Alors que moi je suis arrivé, je me suis intéressé à la techno quand c'était l'époque de la techno minimale, mais sachant que avant moi, c'était la techno était déjà plus rapide. Enfin tu vois, c'est pour ça que ce truc d'étiquette, il est en même temps il est utile, je le comprends, mais en même temps il est assez rôle, parce que c'est ça, les gens ils évoluent, toi t'évolues aussi, et je comprends que les gens aient besoin de s'y retrouver, qu'il faille mettre des noms. Autant moi j'ai pas trop de mal à dire tiens ce morceau est dans tel style, mais après de là dire tel artiste il est dans tel style, je trouve c'est un peu réducteur en fait.
Toi, Victor, c'est quoi ton rapport à l'histoire de ces musiques? Est-ce que tu t'es penché dessus? Est-ce qu'il y a des trucs qui te touchent culturellement, socialement, des pionniers? J'en sais rien.
Dans la globalité, je n'ai pas vraiment tous les fondements et les détails précis, mais oui, il y a eu ce mélange entre la house de Chicago et donc la techno de Détroit. Et à l'époque, c'était vraiment ce qu'on appelle de la musique underground, qui était rejetée par une bonne partie de la population. Donc c'était presque une musique très hyper contestataire, où les gens protestaient grâce à ça, donc avec des communautés vraiment bien propres à cette musique. Pareil à Paris, au départ c'était de ce que je sais, c'est vraiment dans la communauté gay où la house et la techno a commencé à se développer, un peu en opposition à la disco et tout, qui était très très commercial. Mais bon, moi, je suis né dans les années 90, donc ça avait déjà bien commencé avant moi. Donc évidemment que j'ai été moins touché par l'aspect contestataire de
sous-cultures,
des sous-cultures de cette musique. Donc pareil un peu pour l'eurodance et la trance, qui était une musique très... pareil, avec beaucoup de contestations, les gens voulaient dire des choses par rapport à ça. Et moi, quand je suis arrivé dans ce monde-là, évidemment, j'avais quand même... ce que je voulais, c'était faire de la musique qui me plaisait. Il y avait plus un air de fête et de positif, alors qu'avant c'était, ça pouvait être assez dur en fait, ce genre de mouvement et les gens.
C'est le destin de tous les genres musicaux finalement, d'être
absolument
d'abord underground et puis quand ils deviennent un peu mainstream, du coup ils se lissent un petit peu et il y a moins de sens derrière.
Voilà.
C'est marrant parce que tu cites l'eurodance. Pardon,
Non, mais j'allais dire que si la musique est bonne, il y a pas qu'il y a quelque chose de politisé derrière ou pas, si la musique est bonne, peut-être que même sans savoir le message, tu peux l'apprécier. Oui. Et au final, elle devient... t'as même plus besoin du message originel, tu vois, si la musique se suffit à elle-même.
Ouais. Oui, mais il y a des gens qui vont dire elle a un petit peu perdu son sens. Enfin, tu vois,
on
le voit avec le rap aussi.
Il y a deux manières de faire de l'art. Il y a la beauté de ce que tu fais, il y a aussi la démarche. Donc, c'est vrai que...
Mais c'est un vrai sujet. Je pense que dans le rap, c'est le meilleur exemple.
C'est la même chose.
Des rappeurs qui l'important était les textes et ce qui revendiquaient. Ouais. Aujourd'hui, les textes, c'est très important.
Maintenant, on est presque passé sur l'inverse. C'est presque les mélodies de voix. Mais moi, quand j'étais petit, ils parlaient de Rodance. Moi, j'adore le Rodance, ou même l'Eurobeat. Mais moi, j'écoutais ça quand j'étais petit. J'ai commencé avec des cassettes Dance Machine, tu vois. Et j'avais mes cassettes et j'adorais, tu vois. Et j'avais aucune idée de ah ouais, c'est des mecs au warehouse qui ont fait ça, enfin tu vois.
Après Dance Machine, je crois que c'était déjà
Dance Machine était déjà sur du
mainstream.
Et ben je suis d'accord, mais tu vois, moi j'écoute toujours, moi c'est des musiques que j'écoute toujours. J'ai une playlist, tu vois, et j'écoute toujours de l'eurodance comme ça.
Ah oui, non mais c'est pas sale.
Des trucs que je trouve mais géniaux, quoi, vraiment, des mélodies qui sont tellement justes, tellement simples, tu vois, et tellement parfaites.
Il y a eu beaucoup de mépris par rapport à ça. Il y en a encore aujourd'hui.
Alors que ça a été une porte d'entrée pour beaucoup dans la musique électronique.
Ouais, j'adore Corona, tu vois. Tu vois, ça fait rire, mais...
Non, mais ça marche toujours, en plus, hein, vraiment.
Bon, enfin, voilà, bon, je sais pas si...
Mais c'est bien, Corona, franchement... Adaway aussi. Docteur Alban.
C'est pas de l'eurodance à ma connaissance, mais un mec comme Robert Miles, par exemple.
Je pense
qu'il a été important aussi avec ses quelques tubes, tu vois.
Mais à l'époque,
en plus, c'est hyper bien.
Les gens se rendent pas compte, mais à l'époque, c'était des hits mondiaux. Enfin, tu vois, c'est comme Scatman, quoi. Enfin, tu vois, on rigole et tout, mais Scatman.
Et moi, je trouve que
Scatman aujourd'hui ferait 1 milliard de vues sur YouTube. Hein.
Tu vois, la trance, elle est revenue sur le devant de la scène récemment, mais ça a jamais vraiment parti. Non. C'est jamais vraiment parti.
En fait, si t'écoutes Hardbat.
C'est de la trance ralentie.
Hardbat, c'est de la trance ralentie.
Bah, Anima, enfin, Telefeu, c'est l'époque, pareil.
Et c'était assez intéressant de voir qu'il y a 10 ans. Où il y a 15 ans, enfin nous, tu vois, quand on commençait un peu, t'aurais passé de la trance, tout le monde serait foutu de ta gueule, quoi. Mais vraiment.
Ah ouais. Alors que Victor, aujourd'hui, il peut faire de la trance.
C'est has-been et tout. Ouais, moi, mon rêve, c'était de faire de l'eurodance. Hein,
mais à côté de ça, t'as toujours eu des festivals trance et tout qui marchaient.
Des trucs un peu psy-goa, enfin, Infected Mushroom et tout. Mais trance, mais moi, je parle de trance un peu cliché, tu vois. Ouais.
Ambiance fête foraine, en fait, c'est ce que les gens disaient.
C'est ça. Grise 2000, tu vois, enfin bon. T'écoutes les trucs ultra, peut-être un peu moins maintenant, mais qu'on cartonnait là récemment, c'est juste de la trance ralentie. Et il y a certains tracks, je pourrais vous les donner après en off, où tu t'enlèves 15 BPM, c'est un track de Hardbat, quoi. Et donc tu te dis, mais de toute façon, c'est ça, c'est un cycle.
Oui, c'est toujours pareil.
La musique, c'est du recyclage.
Ouais, c'est difficile d'inventer un nouveau style.
Personne n'invente jamais rien.
Tu changes un effet, tu mets une reverb ou machin, et ça change de style.
Tu mets des beats, et puis c'est parti.
Toi, Victor, t'as ce truc, parce qu'il y a. Alors, vous n'êtes pas d'une génération très différente, mais quand même, il y a quand même un petit décalage, tu vois, en termes d'âge et donc de ce qui vous a nourri quand vous étiez jeune, forcément. Tu disais par exemple que la trance, on disait qu'il y a eu une forme de mépris à un moment. Toi, c'est un truc, c'est des éléments qu'on peut retrouver dans ta musique aujourd'hui. Et t'as l'impression qu'il y a un truc un peu cool, entre guillemets, autour de la trance. Je sais que le gabber, par exemple, c'est un truc qui est revenu ces derniers temps.
C'est vrai.
Le gabber. Et il y a toujours des cycles un peu comme ça, tu vois. Tu l'observes avec la trance, par exemple.
Moi, le projet Grand V, à la base, c'était je faisais de l'eurodance. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire de la musique, entre 2015-2016, la house était hyper présente, ainsi que la techno. techno, mais c'est sûr que l'eurodance, la trance et tout, c'était des styles qui étaient quand même assez presque mal vu. Il y avait du mépris par rapport à ça. Dans les soirées à Paris, t'en entendais vraiment pas. Et ce qui était un peu cool, ce qui était hype, c'était de la micro, de la house, de la techno. Donc, au départ, quand j'ai commencé à produire de l'eurodance, c'était presque un peu des guilty pleasures quand je les jouais, quoi. Je les jouais à la fin de set. C'était à 150. Les gens, ils me regardaient en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'ai eu ces remarques en mode musique de fête foraine et tout ça. Et moi, ça me dérangeait pas, en fait. J'ai toujours été, tant que j'étais vraiment touché par la musique, et ce que j'aimais sur l'eurodance, c'était que c'était vraiment rempli de nostalgie, d'émotion. J'en écoutais quand j'étais beaucoup plus petit, de par des cassettes et tout ça, et ça m'a toujours procuré ça. Donc ça m'a jamais dérangé, j'ai toujours trouvé ça cool d'en produire. Mais il y a un moment où c'est sûr que le projet Grand V, il était compliqué à défendre, parce que c'était vraiment de l'eurodance à 150, quoi. Donc à un moment donné, c'est sûr que ce style-là était pas vraiment apprécié, mais il y a eu une forte il y a eu un retour, en fait, là-dessus. Les gens sont retournés.
Tu le faisais après que ce soit cool avant que ce soit recool. Ouais.
j'étais pile entre les deux. Ouais. C'est vrai. Et je me suis jamais dit ça va être cool ou je vais le faire parce que ça va être cool, ça va revenir. Enfin, j'ai jamais eu le côté de me dire il faut que je fasse le style de musique qui va marché. Mais c'est vrai que j'ai vu petit à petit l'eurodance et la trance dans sa globalité revenir un peu au devant de la scène, jusqu'à aujourd'hui où ça devient énorme, en fait, comme industrie. C'est assez big aujourd'hui, ouais.
C'est toujours ce cycle là de ce qui est cool qui ne l'est plus. Après, il y a des artistes qui, eux, sont cool, qui du coup prennent un style un peu suranné. Tu sais, c'est comme les mecs qui portaient une moustache. Au début, c'était second degré. Et maintenant, tu vois, dans le 11e, il y a plein de mecs avec une giga moustache à la Gérard Jugnot années 80, mais qui la portent premier degré, tu vois. Mais à un moment donné, c'était genre, je suis décalé. Tu sais, je joue avec mon image. Allez, je vais mettre un morceau à l'ancienne. C'est pour ça que je me dis, les lacs du Connemara de Michel Sardou, là, il y a un monde où dans 20 ans, les mecs, en fait, ils l'écoutent prom dug en mode, ah, c'était fort quand même.
Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est que souvent, tu sais, par exemple, les lacs du Connemara, tout le monde maintenant trouve ça ridicule, j'en sais rien. Mais à l'époque, c'était genre entre guillemets, alors pas tout à fait, mais entre guillemets, c'était le Anima de l'époque. Ouais. Tu vois,
la scéno en moins, quand même.
Okay. Non, mais vous voyez, ça va être la miniature.
Ça va finir en short, ça,
Louis. Peut-être pas les lacs du Connemara, mais
tu vas avoir des problèmes, Joachim.
Ce que je veux dire, c'est que l'évolution fait que, je sais pas, moi, par exemple, il y a 10 ans, un mec avec une coupe mulette, c'était ridicule. Mais dans les années, je sais pas, fin 80, début 90, la coupe mulette, c'était cool. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire.
C'est de nouveau cool.
Et maintenant, les gens regardent ça, tu vois, tu regardes quelque chose, on dit ouais, ça c'est complètement has-been et tout. Et alors que nous, ce qu'on fait maintenant, ça c'est vraiment cool. Mais dans 20 ans, tu seras un plouc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, comme la tectonique à une époque.
C'est trop bien avec
la tectonique, c'était ultra cool. Maintenant, tu regardes ça, c'était le sum à une époque.
C'est resté trois mois, même.
Bien sûr, mais à une époque, c'était quand même assez cool. Ah ouais, les mecs qui dansent et tout, c'était nouveau, c'était un peu, tu vois.
Mais est-ce que.
À la télé et tout. Et maintenant, tu vois ça, c'est ridicule.
Est-ce que le fait que la tectonique soit passée de mode très très vite, c'est pas justement parce que dès le départ de ce mouvement-là, il y a eu cette notion de la mettre en avant, de formater.
Dès le début.
Oui, de base. Après, ça peut se discuter, tu vois. Mais peut-être qu'ils sont, eux, arrivés. Il y avait déjà l'imagerie avec, tu sais, le piaf là, qui ressemblait à un aigle du Troisième Reich, un peu chelou, là, tu vois. Enfin, il y avait des trucs un peu confus et tout.
Mais attention, parce que je crois que la tectonique revient. Donc,
évidemment.
Le truc que j'allais dire, c'est que ça a duré vraiment pas longtemps, mais on s'en souvient.
Ouais.
Alors que tu sais, il y a plein de trucs qui n'ont pas duré longtemps, comme ça, qu'on a complètement oublié.
Ouais, mais tu sais pourquoi on s'en souvient?
Je sais pas.
Parce que YouTube.
Ah,
et parce que le mec qui se filme avec son pantalon blanc dans son garage et sa coupe
Josiane
Balasco, c'est le début de YouTube, en fait.
Et je pense qu'il faut aussi ajouter une dimension, la dimension de la danse, la dimension corporelle, etc. C'est un truc qui est inscrit aussi, t'es dans l'esprit.
Ouais, bien sûr.
On a de l'image tout de suite des mecs qui dansent, etc.
Ouais. Dans le garage.
Il y avait une grosse identité.
Je crois qu'il l'avait peut-être trop taffé, tu vois. Il l'avait peut-être un poil trop taffé au lieu de laisser le truc se faire naturellement.
Peut-être qu'on peut quand même s'écouter. On a toujours pas écouté la musique de Victor.
Bah oui, allez, balance. Alors lequel?
Petit break.
Moi,
c'est de l'IDM.
J'ai vu que c'était très intelligent.
Nous, on fait de la débile dance music.
Alors, est-ce qu'on s'écoute un extrait de Reframe? Donc, c'est ton dernier album, oui. Et c'est sous le nom Vitesse.
Absolument.
C'est peut-être le truc qui fait le plus de sens. Ouais. Peut-être qu'après, on aura l'occasion d'écouter d'autres trucs. Il y a un morceau que toi, moi, il y en a plein que j'aime sur l'album, mais peut-être que toi, tu peux décider. C'est un morceau que tu as envie d'écouter.
Alors, sur le côté électro et house, il y a, RR1 que j'aime bien, Chroma qui est cool aussi.
RR1?
Ouais.
On fait comme
Let's
ça
go.
Allez, on s'écoute ça. Vitesse.
c'est le moment où je chante.
C'est vrai, tu chantes en vrai?
Non. Donc ça, c'est quel style, ça, concrètement, là? On parle de quoi, là?
Alors, pour
du
moi,
mélange, quand même.
Il y a un peu de mélange, mais pour moi, c'est ce qui se rapproche un peu de la house un peu progressive, dans le sens où la progressive, c'est un énorme aussi fourre-tout, j'ai l'impression, ouais, en fonction des années et des styles et des générations. Mais la progressive, c'est une house qui est assez énergique, avec des percussions, donc qui se rapproche un peu de la techno. Et progressive, parce que ça aussi de... Là, il y a une basse qui est un peu...
La basse est très progressive, je trouve.
Basse progressive, ouais, parce qu'elle se rapproche un peu du côté trance dans les contretemps, donc ça fait, ouais, tout un comme ça, okay, une espèce de pompage. Donc la progressive qui se rapproche de la trance, pour moi, la house progressive, c'est ça, c'est une house qui a pas mal d'éléments et de codes empruntés à la trance et aussi à la techno dans les BPM.
C'est vrai que le terme progressif, c'est toujours compliqué, parce qu'on l'applique compliqué à plein de musiques. Il y a le rock progressif.
Ouais, prog, ouais.
Mais en fait, progressif, qu'est-ce que ça veut dire progressif? Parce que moi, alors...
Que ça progresse.
Moi, étymologiquement. Voilà,
c'est l'étymologie.
Moi, alors, docteur Pasteur, expliquez-nous.
Voilà, pour moi, le roi de la progressive, quand... une de mes, ou peut-être de nos influences, mais quand moi, voilà, en 2010, j'écoutais... Bon, c'était Eric Prydz.
Okay.
Eric Prydz qui te lâchait des tracks de 8 minutes, et ça commençait tout doucement, et ça montait. Et en fait, le track, c'était une montée. Enfin, il y avait des breaks, mais même dans les breaks, ça montait, tu vois, c'était monté. Et pour moi, c'était ça, progressif. C'est qu'en fait, tu as une mélodie qui va évoluer tout le long du track, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça qu'on appelait ça progressif.
Je crois que c'est une approche
littéraire. Si ça se trouve, c'est pas du tout, ouais, ça, tu vois. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qu'on n'a pas le même, tu vois, on n'a pas le même vocabulaire.
Il peut y avoir cette approche littérale entre guillemets du terme,
ouais, ouais.
Mais je crois que je connais pas assez. Mais Shake, par exemple, il peut y avoir souvent un côté plus expérimental dans ce qu'on appelle le progressif.
Comme pour, ouais, le rock progressif.
Exactement.
Ouais, 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 sûr,
donc il,
ouais,
y a pas que la dimension,
ouais,
de la longueur.
Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est
à ma connaissance.
La house progressive, moi je suis d'accord avec ce que disait Victor, c'est une house qui emprunte beaucoup à la trance, okay, dans les mélodies, dans les sons choisis.
Eric Prydz, c'était exactement ça.
Oui,
quoi.
Bah c'est ça.
Des gros synthés, des gros trucs, et puis ça montait.
D'où le côté plus expérimental, parce que tu te permets de prendre d'autres éléments, du jazz, de la trance, quoi que ce soit.
C'est ce qu'on appelle de la fusion, en fait. Tu vois, c'est la musique, la progressive, c'est la fusion du...
Dans cette continuité-là, cette idée un peu de... vous me dites ce que vous en pensez, hein. Et moi, de l'extérieur, je peux me dire que des gens vont considérer que vous, votre musique, votre approche de la musique électronique, Joachim, Joris, c'est un truc quand même assez mainstream. Est-ce que c'est une réalité? Parce que c'est hyper mélodique, c'est plutôt accessible. Ouais. Parce que je pense que parmi vos auditeurs, vous me dites si je me trompe, il y a plein de gens qui sont pas des aficionados de la musique électronique, mais qui sont touchés par votre musique.
Ouais, mais pourtant, enfin, je laisserai Joachim répondre pour son propre cas, mais moi, je suis parti d'un truc très underground à la base. C'était la minimale, c'est la musique que j'écoutais en after et tout, donc. Donc, vu que je faisais avec de la mélodie, que ça rendait le truc avec de la mélodie, ça rendait le truc un peu plus accessible. Et c'est vrai que j'ai beaucoup ce truc-là de gens qui d'habitude n'écoutent pas trop l'électro et qui viennent m'écouter, et ce qui est assez cool en soi. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que quand ça a commencé à marcher, effectivement, on m'a mis un peu dans la case commerciale entre guillemets. En plus, je suis allé chez Universal et tout, donc ça a pas aidé à cette époque-là, tu vois. Et maintenant, je suis de retour dans la niche, quoi. Tu vois, c'est-à-dire là, maintenant, je suis de retour du côté plus underground, tu vois, parce que la musique que je fais, c'est pas le truc qui est hype ces derniers temps, tu vois. Donc, encore une fois, tu vois, on parle de deux cycles, et pareil sur cet aspect, qu'est-ce qui est commercial ou non. Enfin, c'est en fait, quand tu regardes les trucs dans la durée, ça fait pas trop de sens, en fait.
Et Joachim, tu disais, pardon, réussir à toucher les gens avec ta musique, alors qu'eux sont pas forcément très habitués et touchés par cette musique, c'est super. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand des gens viennent me dire, j'aime pas trop l'électro, je connais pas trop la house, mais j'adore cette musique, elle m'a touché de par certains éléments, et ça, c'est assez cool en soi. Donc
mais tu vois, à côté, ça m'a valu d'être snobé un petit peu par les gens qui étaient mes influences, tu vois.
Évidemment.
Ben moi, c'est assez similaire. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que quand t'as un peu le cul entre deux chaises, c'est dur d'être accepté par quelqu'un, en gros. Donc, quand tu vas être le commercial de certains, et tu vas être trop commercial pour jouer dans telle soirée, mais trop underground pour jouer dans telle soirée. Mmh. Tu vois. Donc, en fait, au final, tu te retrouves un petit peu... Donc, c'est pour ça que les gens qui ont leur propre style, je pense que quand même le graal, entre guillemets, un peu de la musique, c'est que quand quelqu'un écoute, quelqu'un qui connaît un peu la scène, mais quelqu'un écoute et dit « Ah ouais, ça c'est un Joris, tu vois, tu reconnais direct, c'est bon. » Tu vois, il faut que... Le but, c'est de faire ta propre musique, quoi. Et c'est vrai que bah, quand tu fais ta propre musique, souvent, tu passes un peu par une phase... avant d'être un peu reconnu ou un peu voilà que ça marche, tu passes par une phase où tu n'appartiens, enfin tu vois, c'est ta propre musique, t'es une individualité, et donc c'est plus dur. Si tu fais ce qui marche en ce moment, bah ça va être plus facile de te marketer, dire ouais regardez ce mec là, nouvelle soirée et tout machin, ça marche. Si tu fais un truc, c'est ton propre style, c'est un peu un ovni, donc c'est un peu ouais bah lui on sait pas trop, t'es un peu tissé tiède, t'es entre deux chaises, et donc tu vois c'est un peu plus difficile de débuter quoi. Mais bon, je sais pas, moi, ma musique commerciale, non. À une époque, par exemple, moi, j'adore le vocal. Moi, en fait, moi, vraiment, j'adore tous les styles de musique. Mais vraiment, mais hein, c'est presque, ça n'a aucun sens. Et donc, moi, j'adore le vocal. Et ben, à une époque,
qu'est-ce que t'appelles le vocal ? C'est le fait qu'il y a des voix.
Le fait ouais. qu'il y ait une voix.
Et ben, à une époque, pas les vocaux de WhatsApp.
ouais. Mais à une époque, si je mettais une voix, c'était ah ouais, c'est commercial, il y a une voix, moi je préfère la musique où il n'y a pas de voix. Ou ça.
Ah ouais, mais ça,
et tu vois, ça, pareil, encore une fois, enfin bon. Mais moi, ce que j'aime dans la musique, c'est l'émotion. Je veux ressentir une émotion. Je veux quand. Ça, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand j'étais jeune, ça m'arrivait d'écouter de la musique pour m'endormir dans la musique et d'avoir vraiment une émotion, que mon cœur se mette à battre ou de sentir les poils qui se hérissent ou quoi.
Quand tu étais jeune, mais non, c'est
ouais, fini. Non, maintenant, j'ai plus de cœur. Donc, voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que. Voilà, de ressentir vraiment une émotion. Et c'est ça que moi, j'essaye de faire. Et le meilleur moyen de faire une musique qui va faire ressentir une émotion, c'est de faire ce qui te touche vraiment. Et tu vas forcément tomber sur quelqu'un qui va être connecté aux mêmes ondes que toi, enfin aux mêmes ondes, c'est un peu, mais qui va ressentir les mêmes choses que toi, et donc ça va le toucher. Et la musique un peu mainstream, c'est une musique qui touche plus de gens, qui est plus facile, mais bon après.
Parce qu'il y a la dimension esthétique, ce dont on parle. C'est intéressant d'ailleurs sur les voix, effectivement, parce que je pense que dans la musique électronique, il y a un vrai truc autour de la voix où.
Ouais, ça s'est calmé, mais à une époque, moi, en tout cas, moi, c'était vraiment relou. C'est dès que je mettais de la voix sur un morceau, ça y est, mec, t'es commercial et tout.
Parce qu'il y a la voix, il y a la voix samplée, il y a la voix samplée comme on l'entendait tout à l'heure dans la musique de Victor, par exemple, sur le morceau de Vitesse, où il y a, tu vois, il y a trois phrases, trois mots, tu vois, qui reviennent samplés en mode répétitif.
Oui,
c'est accepté, ça, en général. Par contre, l'idée vraiment d'avoir en format presque chanson, entre guillemets, c'est là où ça se complique, c'est ça ?
Ouais,
je suis d'accord. Et dans tous les styles différents, c'était que même nous, dans la musique que je faisais aussi, à une époque, mettre des vocales, c'était presque un risque et un parti pris artistique. Et on pouvait vraiment s'attendre à ce que des gens nous disent « Ah, tu mets des vocales dans ta musique. » Donc encore une fois, c'est comment les gens réagissent et dans quel genre ils veulent se mettre. Et en disant « Ah non, les vocales, j'aime pas, donc j'en écoute pas, donc je critique ceux qui en mettent aussi. » Et donc au final, ça s'est estompé. Et de plus en plus de styles de musique, que ce soit de la hard techno à la house minimale, dedans on met des vocales. Ouais. Donc ça évolue.
C'est censé, et c'est les mêmes qui vont te dire la musique c'est un espace de liberté. Tu vois, c'est un espace de liberté. Mais ouais, bah, donc laisse-moi mettre un vocal. Tu vois. Si j'ai envie de mettre un accordéon dans ma musique, parce que moi ça me plaît, bah, je mets ça. Et pour moi, c'est ça. Tu vois, être vraiment underground. Quand tu vois des mecs qui sont soi-disant underground, mais qui font la même musique copier-coller,
qui sont formatés
temps,
en fait,
mais qui sont là, ouais, moi je suis underground et tout. Alors attends, c'est quoi en ce moment d'être underground ? Faut s'habiller en noir et ça. Ok, je m'habille en noir.
Voyage en jet.
À partir du moment où tu suis une mode, t'es plus underground. Le mec underground, c'est le mec qui est même pas au courant de la mode. Tu vois, parce que le mec qui habite dans une grotte et qui est même pas au courant de ce qui marche en ce moment ou quoi,
lui, il est littéralement
underground.
Non, mais tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu t'inscris dans un espèce de mouvement, d'une espèce de mode, d'un espèce de truc comme ça, arrête de t'appeler underground.
Conformisme, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Tu vois ce que je veux dire? La musique, c'est ben, chacun fait son truc, chacun. Voilà, mais à partir du moment où tu essaies de caler à des codes, ou que tu commences à réfléchir, attends, il faut que je mette des chaussures comme ça pour ressembler à ça, pour faire ci, voilà. On n'est plus dans l'underground, on est dans le calcul. Quoi.
Après, il y a une dimension quand même qu'il faut ajouter, et on en parlera après, on va s'écouter un morceau de musique, mais c'est la dimension aussi des moyens de production. Il y a quand même cette différence aussi entre l'underground et le commercial. Et on en parle juste après. Peut-être qu'on peut écouter, on parle de morceaux vocaux. Sur ton dernier album, Joachim, en solo, Phantom Grid, il y a le morceau, par exemple, Field of Snakes, où il y a des voix. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais on peut s'écouter un petit extrait.
Ou sinon...
Vous avez un
parce qu'après, j'ai des tracks aussi qui sont moins... Tu vois, dans cet album-là, il y a des tracks qui sont beaucoup moins...
commercial.
Ouais, c'est ça, c'est commercial. Non, mais tu vois, il y a des tracks qui sont pas du tout qui sont vraiment pas qui sont à 70 BPM, tu vois, qui n'ont pas du tout ce côté dance music.
T'as envie de nous faire écouter un extrait de l'album qui est un peu différent?
Je me souviens des titres. Non, mais le dernier, ouais, Walk With Me, par exemple, ouais. Si t'écoutes ça, alors il y en a qui vont dire, ah, c'est commercial et tout, ou j'en sais rien. Enfin bon, peu importe, tu peux mettre ce que tu veux, mais bon, je sais pas. Moi, je fais juste ce qui me plaît, quoi. Tu vois, si ça me plaît, ça me plaît. Bah, et
on,
voilà.
On l'écoute et on dit si ça, si ça nous plaît aussi.
Si c'est bien ou pas.
Walk With Me. Say a word. Give me a hug and say goodbye. The ride is there, a new journey. I understand why I have been. Never forget.
Commercial, on peut le dire.
Commerce, je comprends plus rien.
Pécuniairement, j'ai pas vu le commerce, mais.
Qu'est-ce que tu comprends plus rien?
Je comprends plus rien, moi. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi?
Ouais,
est-ce,
voilà.
Est-ce que c'est de la musique électronique, par exemple?
Bah, ouais. Je me pose une question.
C'est quoi? C'est du trip hop ou c'est quoi? Ouais, voilà.
Ouais, ça ressemble à.
Franchement, ça me fait penser presque à des vieux albums de R ou Phoenix avec des BPM hyper slow, des drums et tout ça. Donc, franchement, j'ai trouvé ça hyper cool et j'ai été surpris de. Enfin, avec la vocale, évidemment, qui arrive au début, l'ambiance un peu électro, on s'attend un peu à un BPM élevé avec un kick sur tous les temps.
Ah oui,
et
oui.
La batterie qui arrive comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça très cool.
Parce qu'après, il y a les voix, puis il y a les types de voix aussi. Parce que là, par exemple, sur ce morceau, il y a un type de voix que j'associe quand même, tu vois, à quelques tubes. C'est vrai.
Oui, c'est une voix.
Parce que c'est pas seulement mettre de la voix, c'est aussi, tu vois, quelle voix on met.
C'est qui chante?
Oui, je crois que c'est toi.
C'est moi qui chante. Voilà, c'est pour ça. En fait, c'était dans cet album, j'ai fait toutes les voix. Et donc, je les ai chantées avec mes belles cordes vocales. Et ensuite, je les ai fait passer dans de l'IA pour changer les tessitures et puis faire des voix d'hommes, des voix de femmes.
Il faut savoir qu'il chante très bien. Ouais. Il n'assumera jamais.
Et puis voilà, bon, et puis donc, cet album, j'avais fait les voix, fait les voix comme ça.
Mais tu vois, par exemple, la voix est très produite.
Ouais.
Elle a un grain. Tu vois, je suis pas noté non plus que ça soit l'IA, c'est-à-dire que t'entends pas la petite fêlure non plus de la voix, pas tout à fait juste à des moments, etc. Tu vois, je pense qu'il y a aussi là où ça peut jouer parfois, tu sais, sur le rapport aux voix, à se dire c'est un peu plus calibré.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Sur le côté lisse, en fait. Tu
vois. Ouais, exactement.
Ouais,
tu vois.
Ouais, mais le fait de pas produire beaucoup, ça devient un style.
Ouais.
Tu vois, c'est comme Fred Again, tu regardes rien que ses covers. Tu regardes les covers, c'est un selfie de lui comme ça. Donc on est presque dans la caricature du « ouais, moi c'est pas produit ». Alors que bon, c'est quand même très très produit. Mais tu vois, le but c'est de donner maintenant, ce qui est cool, c'est « ouais, moi je fais tout à l'arrache et tout ».
Ouais, mais pour le coup, tu vois, Fred Again, moi c'est un projet que j'aime beaucoup.
Oui, c'est pas pour critiquer Fred.
Et tu sais, on parle des cases et tout. Pour moi, le type de carrière qu'a Fred Again aujourd'hui, honnêtement, c'est un objectif parce que t'écoutes ses morceaux vraiment d'un morceau à l'autre, ça n'a rien à voir. Mais tu sais que c'est lui. Et justement, là, il n'y a pas ce truc de case et tout. C'est Fred Again, fait du Fred Again. Il fait dans le style qu'il veut. On sait que c'est du Fred Again, tu vois. Et pour moi, c'est ça l'important.
Ouais, c'est d'être unique, quoi. Ouais. Moi, c'est un peu pareil. J'ai des tracks que Joris connaît qui sont pareils à 150 BPM. Voilà. Et je pense que tu reconnais quand même un peu, tu vois, entre tous mes styles, tu reconnais quand même un peu ma patte.
Ouais,
quoi.
Oui, c'est ce que tu dis. C'est presque le Graal pour un artiste d'arriver à un moment où. Il fait la musique qu'il veut, il a sa communauté, les gens le savent, il peut partir sur différents styles, et lui, il se posera jamais la question de savoir sur quelle catégorie il va avoir, est-ce qu'il va avoir une étiquette, est-ce que ça va marcher ou pas.
Sauf que on est d'accord que pour arriver à ça,
C'est du long, c'est du long terme.
Tu peux pas le faire dès le départ.
Fred Again, c'est un, enfin, c'est un gars qui est dans le circuit depuis très longtemps, qui fait de la ghost prod pour énormément de gens. Enfin, bon, c'est un gars très très doué. Et le projet est arrivé relativement récemment. Tu vois, donc je pense qu'il avait déjà une maturité artistique qui lui a permis de, d'atteindre ce truc direct. Mais effectivement, après, il y a plusieurs façons de l'atteindre. Bah, toi, tu l'as fait avec plusieurs alias pour garder cette liberté.
C'est-à-dire qu'à terme, tu pourrais refusionner tout ça pour dire, bah, c'est moi en fait, Nick.
Je sais pas du tout. C'est une chose sur laquelle je réfléchis pas du tout. Franchement, quand ça dépasse trop le côté marketing et de devoir réfléchir à ma musique, au projet, à l'image, c'est là que mon cerveau, il se met en off et dit, ah, je vais retourner produire parce que
Et puis, ce qu'il faut dire, Victor, c'est que dans Reframe, par exemple, dans ton dernier album sous le nom Vitesse, en fait, il y a de la diversité aussi. Absolument. On parlait de morceaux avec de la voix. On peut peut-être s'écouter un extrait de Osaka Station.
Ouais.
Où là, justement, d'une part, on s'éloigne un peu de la musique électronique pure et dure, house, etc. En plus, il y a de la voix. Avec Lucille. On s'écoute un petit extrait ?
Ouais, bien sûr.
Sur ce morceau, tu vois, très alors ça reste musique électronique, ça reste, c'est hyper French Touch, house filtré, etc.
Mais c'est du funk.
Mais en vrai, mais en fait, voilà, tu changes juste les types de sons, le son de batterie, tu gardes le même groove, tu changes le son de basse aussi.
La basse,
en fait, c'est de la soul, du disco,
des instruments acoustiques en soi. Mmh. C'est ce que j'ai voulu refaire, c'est jouer la batterie, faire enregistrer la basse, une chanteuse qui vient chanter et d'avoir. Tu parlais tout à l'heure des défauts qu'on pouvait avoir. La musique électronique, elle peut être pleine de chaleur et tout ça, mais elle est très aseptisée parce que tu peux pas faire une fausse note quand tu joues ton piano, ou tout est très, même les drums, elles sont
à
la minute près, tout est calé. Alors que là, quand tu enregistres une basse, quand tu enregistres du chant, une batterie, tout ne sera pas calé, mais c'est ce qui va faire un peu le groove et ce qui va rendre ta musique un peu vivante. Donc c'est ce que j'ai voulu, en fait, c'était avoir un côté le contre-pied du côté club, comme on a écouté tout à l'heure, d'avoir des chansons vraiment avec un fort accent acoustique et quelque chose qui s'écoute pas en club. Ça, je pense que sur un live, si je joue cette track là, ce sera vraiment
un petit remix.
Peut-être un petit remix. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que cette track s'appelle Osaka Station et juste avant, t'as Airglow Station qui est le côté club de cette track très UK avec les mêmes accords, les mêmes vocales et tout ça. Mais j'ai fait vraiment deux versions. Ce que j'ai fait dans l'album parfois, deux versions de chaque track avec des versions un peu down tempo. Et donc là, c'est le côté un peu plus. Il y a énormément de choses, un peu de soul, de jazz, un peu comme tu disais tout à l'heure, de la fusion. Pour moi, c'est le parfait exemple un peu de jazz fusion avec de l'électro, ce que j'aime beaucoup écouter. Donc c'est pour ça que j'étais content de pouvoir faire un album pour pouvoir aller vers des styles un peu différents.
Et puis de toute façon, la filiation house et disco, elle est évidente, elle est historique. Donc
la house, ça vient de la disco à la base.
Bien sûr.
Ouais, il y a énormément de ponts
entre les deux. La disco, ça vient du funk et en fait tout.
Oui.
Mais le problème, tu vois, c'est que par exemple, tu regardes quand Daft Punk, ils ont sorti Random Access Memories, il y a plein de gens qui étaient fans d'électro qui n'ont pas compris. qui étaient en mode bah c'est du chic, c'est du, tu vois.
Moi je suis assez d'accord avec eux.
Bah ouais, mais en fait,
non, mais en fait Daft Punk, pas trop ont, c'est le style.
Moi je le trouve trop bien.
Il y a le style Daft Punk, eux ils ont évolué et puis ils en avaient peut-être marre de faire toujours pas la même chose mais toujours un peu.
Ils avaient envie de faire un album hommage à la musique avec laquelle ils ont vendu.
Mais ce qui est important, c'est de le comprendre. Moi j'étais hyper déçu aussi de cet album parce que j'étais un peu plus jeune avec mes potes, on était Daft Punk avec écrit sur le front, mode Homework, tout ça, l'électro. On s'est dit là on va se régaler parce qu'en plus c'était la première fois où on vivait une sortie d'album des Daft Punk qui était déjà sorti avant et on a entendu ça.
Vous
et on l'a
compris.
Écouté, on s'est dit mais c'est quoi et en fait maintenant pour moi c'est un monument, cet album il est incroyable quand tu vois avec tous les icos avec lesquels ils ont joué et tout ça. Et en fait ce qui est cool c'est quand tu comprends les choses et même si ça prend deux ou trois ans, ce qui est important c'est de savoir qu'un artiste il a besoin parfois d'aller vers des nouvelles,
choses. Tu fais de la house, tu fais de la musique électronique et en fait à un moment donné t'as l'opportunité et les moyens de faire en sorte que ta ligne de basse elle soit jouée par un des meilleurs bassistes au monde, tu le fais et du coup en fait bah, tu refais du chic quoi.
C'est le défaut, pardon, après Joachim, pardon, je te laisse. C'est juste moi, l'album est, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est incroyablement produit, c'est incroyablement bien joué, c'est enfin tu vois le travail autour de l'album il est colossal, ça on s'accorde tous là-dessus. Après c'est juste d'un point de vue l'approche artistique de cet album. Moi, elle me convient pas complètement. S'arrêter à une forme d'hommage. À la fois, je trouve ça, il y a une certaine beauté là-dedans, et en même temps, en fait, il m'a pas touché cet album.
Oui, moi aussi, je préfère. Moi
voilà, tu vois. Bon,
parce que vous avez pas de.
Ça, c'est un truc que tu peux faire quand t'es Daft Punk.
Ouais,
tu vois,
absolument.
Et malgré ça, t'as des critiques.
Parce que là, t'es en mode, comme tu disais, c'est un truc que tu comprends peut-être une décennie après, parce que c'est Daft Punk, donc t'as quand même réécouté, tu vois. Ça aurait été un artiste random ou comme ça, que t'écoutes comme ça, qui aurait fait ça, t'aurais dit, vas-y, il m'a saoulé. Tu vois, parce que dans le monde d'aujourd'hui, qui est de plus en plus éphémère, de plus en plus rapide, je pense que c'est un peu vite, il m'a gonflé, quoi, tu vois.
Mais je suis d'accord que si c'était un album en mode ghost, où on savait pas qui a produit ça. Enfin, je sais pas si on s'aurait dit, est-ce que c'est les Daft Punk?
Il y a quand même deux, trois.
Il y a des vocodeurs et tout ça, mais.
Si vous connaissez un groupe qui s'appelle Parcells.
Bien sûr.
Moi, je me suis toujours demandé si. Je sais pas, peut-être que si ça se trouve, c'est connu, et moi, je suis dans ma grotte, mais je me suis toujours demandé si c'était pas le gars de Daft Punk qui produisait Parcells. Parce que ça ressemble tellement acoustiquement, le mixage, les mélodies, les Wurlitzer, tout.
On connaît bien le groupe Parcells, c'est pas le Daft Punk. Par contre, ils avaient fait un featuring avec Thomas Bangalter sur un morceau, un des premiers morceaux, c'est Overnight. Il me semble qu'il y a
Overnight. Ouais. Overnight, enfin tu quand t'écoutes Random Access Memory et puis même Overnight ou même des trucs de Parcells, tu te dis mais.
C'est juste l'influence et le raz-de-marée qui a été Daft Punk avec cet album.
Alors que Parcells, eux, c'est leur identité propre, alors que Daft Punk, c'était un peu.
Mais tu vois, enfin pour terminer sur Random Access Memory, il y a un truc par contre que je reconnais, même si j'ai pas été touché musicalement par l'album, c'est que je suis le premier à dire c'est important aussi le patrimoine dans la musique, le rapport aux anciens, aux inspirations, les mettre en avant, etc. Le fait qu'ils aient invité plein de gens qui étaient importants pour eux, George Moroder, machin, etc., Nile Rodgers et tout, et qui disent voilà d'où vient notre musique, voilà les pionniers, valorisons-les. Etc. Mettons-les en avant. Ça, c'est une démarche que je peux que apprécier.
Oui, parce que tu sais, Salman, on parle des ramifications, on parle de l'arbre, mais il y a des racines.
Bien sûr.
Le problème, c'est que les racines, tu les vois pas parce qu'elles sont parfois underground.
Je
vous laisse méditer là-dessus. Ok.
Pour revenir à notre discussion.
Ça fuse.
Pour terminer, après, on parlera du live parce que c'est un truc hyper important dans vos carrières. Sur le côté mainstream, commercial, machin et tout, il y a quand même un aspect dont on n'a pas parlé, je disais, c'est les moyens de production. Parce que c'est pas seulement, je suis d'accord pour dire un son commercial, ça n'a pas forcément de sens, ça dépend du moment et tout. Par contre, il y a un moment où c'est vrai, t'as plus ou moins de moyens pour faire ta musique. Tu vois, et ça, mine de rien, ça joue quand même sur le commercial. Est-ce que je vais arriver à la distribuer à grande échelle? Et quand je pense à la distribuer à grande échelle, peut-être que je fais pas exactement la même musique. Enfin, il y a quand même, tu sais, un truc comme ça qui rentre en jeu. Et pour pas complètement mettre de côté le côté commercial, ça veut rien dire et tout.
Ouais, mais d'un côté, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais de l'autre.
Ouais, une prod maintenant, c'est.
Ouais, enfin, la prod, c'est quand même devenu accessible avec un ordi. Tu peux quand même faire des choses assez
faciles. Tu fais Random Access Memory.
C'est différent.
Non, mais Random Access Memory, tu peux le faire avec des musiciens qui sont moins connus. Alors peut-être qu'ils joueront un peu moins bien, je sais pas. Tu vois.
Peut-être plus de fausses notes.
mais sur le mix.
Mais techniquement, tu peux le faire avec des moyens plus modestes. Tu vois. Après, dans la diffusion, là, c'est autre chose. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, etc. Et tu vois des trucs qui pètent leur mère, mais tu sais même pas pourquoi. Que des fois, tu te dis, bon... Et après, t'as la machine qui se met en route, et de toute façon, il se cale sur un truc qui marche déjà. Donc,
exactement.
Donc, c'est facile, tu vois. Donc, les moyens de production aujourd'hui, oui, ils sont importants. Mais
et j'inclus effectivement la distribution, etc., dans tout ça.
Ouais, mais en même temps, voilà.
Faire du vinyle, faire du CD. Alors, je sais qu'il y a aussi les streams et tout, mais enfin, tu sais, ça, c'est pas encore complètement négligeable, ouais, tout ça, quand même.
Il y a un espèce de paradoxe aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai l'impression.
La promo.
Ouais, mais j'ai l'impression que, entre guillemets, n'importe qui peut péter fort du jour au lendemain. Et de l'autre, j'ai l'impression que les moyens à devoir engager dans le marketing et tout n'ont jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Donc c'est très très bizarre, hein, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui.
Ouais, c'est important de séparer les moyens de production, comme tu disais. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde peut avoir accès à des instruments, à un ordi avec Ableton. Donc c'est vraiment une question de talent, de skills et du temps que tu vas y passer.
Même si tu veux de l'orchestral, arriver... par exemple, là déjà tout de suite, la question se pose un peu différemment.
Il y a évidemment des exceptions, mais tout le monde peut vraiment arriver avec un temps de travail et de la motivation à un rendu. Tu peux aujourd'hui faire un rendu très épuré, super bien mixé et tout ça. Enfin, il y a même des tutos, tu le disais. Ah. Et il y a aussi les moyens de communication. Et ça, c'est sûr que les moyens, là, aujourd'hui, sont démesurés. Et que c'est comme à l'époque à la télévision. Nous, on nous faisait manger et écouter ce qu'ils voulaient qu'on écoute. Quand tu regardais la télé, tu voyais les clips passer, c'est des sons, tu clignes des yeux, tu vois encore les clips et t'as encore la musique en tête. Aujourd'hui, c'est presque ça. Tous tes réseaux sociaux, tu vois un tel la vidéo parce qu'il y a de la sponso, il y a des trucs comme ça. Donc les moyens aujourd'hui sont démesurés.
Ouais, mais des fois, t'as des trucs, il y a zéro sponso, il y a rien, c'est juste ça pète, quoi.
Ça arrive, mais il y a aussi des gros budgets mis quand même aussi dans les promos YouTube.
Et c'est souvent ça.
Qui sont faits pour donner l'impression en plus que ça pète de manière organique.
Oui, ça peut arriver aussi. Ouais.
Alors, moi, pour répondre à ta question qui était quand même, est-ce que des fois les moyens techniques, est-ce que ça te fait changer ce que tu fais? Moi, je pense souvent que les moyens techniques, même de production, se font parfois au détriment de l'essence, de l'idée de la musique. Mmh. Et en fait, il y a un espèce de truc que j'ai remarqué chez moi, mais je pense que c'est que quand tu débutes, par exemple, tu débutes la musique électronique, au début, tu connais rien, donc tu es très, très libre. Donc tu as une tonne d'idées, ça part dans tous les sens. Et quand tu fais ça depuis 20 ans, tu te rends compte que t'es devenu très, très calibré et tu as moins d'idées. Par contre, l'exécution technique va être beaucoup mieux. Et en fait, il y a un sweet spot un peu entre les deux. C'est le moment où tu commences, où tu as encore plein d'idées et tu commences à être bon techniquement. Et là, tu as encore les idées.
Le prime, comme dirait les jeunes.
Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu... Des fois, la débauche de moyens techniques, avoir énormément de moyens techniques vient un peu au détriment de tes idées, de ta musique. Voilà, c'est ça. Et le fait, un exemple tout bête, le fait d'avoir... de pouvoir mettre des effets à l'infini, des synthés à l'infini et tout est émulé dans l'ordinateur, ça fait que tout va devenir de plus en plus brouillon, tu vois, t'en mets trop, tu vois ce que je veux dire. Alors qu'à une époque, il y a des artistes, et donc on en revient tout à l'heure au groupe de rock qui eux étaient acoustiques, il y avait une guitare, une basse et tout, il fallait se débrouiller pour faire quelque chose de super avec ça.
Mmh. C'est ça qui était cool.
Et donc c'est ça qui était cool parce que ça te forçait à aller tirer la quintessence de ton ampli, la quintessence
fameuse contrainte
de ton jeu. Voilà, c'est ça. Et moi, par exemple, là, je suis en train de proder et maintenant je me suis refixé sur 5 éléments rythmiques, une basse, deux synthé, c'est tout quoi. Et après, bon, des petits trucs, mais c'est tout. Et donc, des fois, voilà, le fait de. Et puis, un autre truc, donc là, moi, je parle des éléments techniques, mais aussi les éléments marketing, ça peut aussi t'amener une pression qui fait que tu as fait des trucs qui marchent et tu dis, oh là là, il faut absolument que je continue à faire des trucs qui marchent, il faut que je continue à. Moi, j'ai eu ça un peu dans ma carrière, j'avais fait des tracks qui avaient vraiment marché. Et puis après, j'étais un peu coincé, je me disais, est-ce que je refais un peu la même chose ou pas la même chose, et donc je commençais à réfléchir trop à ça et la musique devenait presque plus un plaisir. L'autre jour, ce que je disais au je sais plus à qui j'ai dit ça, si c'était au management ou à Joris et Théo, mais je leur disais, de toute façon, maintenant pour moi la musique c'est devenu un hobby. Tu vois, même si c'est mon métier, entre guillemets, mais il faut que ça redevienne un hobby.
Ouais, c'est redevenir un hobby.
Il faut que j'en ai plus rien à foutre, en fait. Ouais. Pour faire de la bonne musique, il faut que j'en ai plus rien à foutre. Et que je dis, bah, moi, je veux faire ça. Je fais ça, ça me fait plaisir. C'est la musique que j'aime. Après, moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Et après, quand la musique est faite, on peut faire la technique et on peut faire le marketing et tout comme des professionnels. Mais au moment de la création, il faut voir la musique comme un hobby. Et tu vois pas mal d'artistes qui cartonnent.
dont les parents sont... Attention, là, on va encore passer du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Dont les parents sont milliardaires. Mais c'est pas
parce
forcément...
qu'ils n'ont pas la pression.
C'est pas for... Voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas de pression. Ils se disent pas, ouais, il faut absolument que je fasse de la musique, sinon je vais aller bosser à Waffle Factory, comme
ils ont peut-être
quand j'étais jeune.
Aussi d'autres moyens, peut-être.
Ouais, et puis après, ils peuvent faire de la sponsor. Mais en tout cas, le fait de ne pas avoir de pression, de dire, moi, je fais de l'art pour l'art, ça peut aider à faire quelque chose de plus... vrai. De plus, t'es pas dans la contrainte de dire bon, il faut que je...
Et ça va dans le sens de ce que je disais quand même, l'aspect commercial, il se retrouve là aussi. C'est-à-dire que faire l'art pour l'art, c'est un hobby, c'est anti-commercial. L'idée n'est pas en faire commerce, justement.
Exactement.
Donc c'est bien la preuve que lorsqu'on est dans une démarche commerciale, parfois on perd quelque chose. En tout cas,
après, il y en a qui sont dans une démarche commerciale et qui s'en sortent très bien avec ça. Parce qu'ils sont faits pour faire ça.
Et il y a aussi des gens qui font, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les Spice Girls, il y a aussi des gens qui disent, ok, allez, on va faire un groupe qui va cartonner. Ils vont chercher des mecs qui vont faire une composition, et la composition, elle sera super. Tu peux aussi faire un truc commercial, et la musique en elle-même, elle est géniale. C'est pas forcément parce que c'est commercial que c'est forcément nul. Il y a de la bonne musique et de la musique pas bien, quoi. C'est tout.
C'est aussi ce qui nous fait vivre. Tu le disais, enfin, pour nous trois, je pense, on n'a pas de travail, de job à côté. Donc c'est ce qui nous fait vivre. Et il y a aussi dans une partie de notre tête me dire, bon bah, si du jour au lendemain je me mets à jouer de l'accordéon et faire quelque chose qui marche pas et que les gens ne consomment pas, ça marchera pas pour nous, et du coup
il y a une pression.
Donc il y a plus t'avances dans ton projet, plus t'as une pression mentale, t'as une pression aussi financière. Donc il faut réussir à trouver le juste milieu entre tout ça et à garder, ouais, à trouver ton sweet spot, de pas forcément vendre et de dénaturer complètement ce que tu fais, mais de pas te dire je suis complètement libre et de partir dans des choses qui derrière ne marcheront peut-être pas aussi.
C'est à dire qu'il faut que t'aies dans un coin de ta tête le fait que tu dois pouvoir vivre de ça. Donc
même si tu veux pas l'avoir, c'est là dans un coin de ta tête.
De toute façon, il y a un truc, après moi, c'est ma philosophie, c'est que ok, je fais de la musique pour moi, je fais ce que j'aime, etc. Mais à un moment donné, il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui payent leur place pour venir me voir en concert et qui attendent quelque chose parce qu'ils ont entendu tel ou tel morceau. Et moi, à partir du moment que je suis rentré dans ce jeu-là, c'est-à-dire d'avoir une audience et de faire des concerts pour eux, d'une certaine manière, je suis obligé de respecter
une obligation
aussi.
De résultat.
Il y a le minimum syndical, quoi.
Mais ça, j'ai envie de dire, c'est même du professionnalisme.
Oui, ouais, bah après, ça. Chacun. Après, il y a des artistes qui vont te dire non, moi, rien à foutre, je le fais pour moi, la vie des autres ne compte pas et tout. Et je respecte ça aussi, tu vois. Mais voilà. Mais moi, en fait, j'essaie toujours de trouver la balance entre ok, ça, c'est moi, parce que même au-delà de le faire pour les gens, moi aussi, pour moi, j'ai besoin d'avoir aussi mon identité, ma petite spécialité, etc., tu vois. Mais comment je mélange cet aspect-là avec l'aspect où j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses, en fait, tu vois. Mais avec le temps, tu vois, ce que je voyais comme une contrainte, je le vois plus aujourd'hui comme un challenge intéressant, tu vois. Parce qu'au final, je me dis, faire des trucs complètement différents, en soi, je trouve ça plutôt facile. Faire tout le temps la même chose, c'est facile aussi. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à faire les deux en même temps, tu vois.
Il y a des trucs où tu te dis, ouais, ça c'est mort, j'explore pas cette idée-là que j'ai commencé à taffer parce qu'en fait, ça marchera jamais en live ou ça marchera jamais en soirée ou...
Ouais, mais enfin, c'est peut-être aussi parce que, enfin, le côté ça marchera jamais, c'est pas ça qui m'a empêché d'aller au bout d'un track. Mais des fois, je commence un truc, tu vois, qui a rien à voir et tout, et puis en fait, c'est plus, je sais pas où le faire aller.
Ouais, t'as pas le temps, quoi.
Ouais, enfin, oui, j'ai pas le temps.
C'est-à-dire que la question sous-jacente, c'est est-ce que vous allumez encore vos machines pour faire de la musique dont vous savez que ça sortira jamais et qu'il n'y a même pas d'objectif?
Oui, bien sûr.
Bah ça, c'est la musique hobby.
Ouais.
Et celle qui sort, non.
Au départ, tu le sais pas. Tu fais de la musique en disant, je sais pas ce que ça va donner. Et parfois, tu dis, il faut que je fasse un tube. Tu fais trois trucs qui sortiront jamais.
Est-ce qu'il y a une routine, justement, où c'est quelque chose que vous arrivez à sentir maintenant, genre, au bout de X heures? Tu sens à peu près où il va le morceau, tu sais, quand t'as bossé dessus, ou est-ce
même
que c'est encore de la surprise?
En quelques minutes, je pense que tu sais si un track il va être efficace parce que t'as déjà vraiment l'idée en tête. Ouais. T'en parlais, les meilleurs tracks, c'est pareil pour moi. Ceux qui sont en 25, 30 minutes, t'as déjà l'idée dans ta tête et tu sais que ça va être.
Ça dépend. Il y a des tracks, des fois, tu vois, je commence et puis en fait, à partir du moment où je commence, j'ai jusqu'au bout. Mais les trois quarts du temps, moi, c'est pas ça qui se passe. Moi, c'est par période. Là, par exemple, c'est la période à laquelle je suis en ce moment. En ce moment, j'ai pas envie de faire des tracks, j'ai pas envie d'aller au bout des tracks. Et j'ai pas envie de me prendre la tête, en fait. Juste envie de poser des idées et de kiffer, tu vois. Et donc là, moi, mes journées, c'est, je pose 3-4 idées par jour, tu vois. Mais c'est des bouts, quoi, tu vois. Et puis, dès que ça y est, mon idée, elle est posée et que, tu sais, j'ai pas envie de rentrer dans le truc où là, il faut que je commence à structurer, faire des automations, machin, tout ça. Mais hop, je passe à un autre truc. Mais par contre, c'est des trucs sur lesquels je reviens plus tard. Et c'est peut-être à ce moment-là que je vais me dire, tiens, là j'ai envie de faire un track efficace ou là j'ai envie de faire un track mental le matin. Et en fonction de l'objectif de ce que j'ai envie de produire, je vais réécouter un peu tout ce que j'ai fait et je vais dire bah tiens celui-là il est bien et je vais développer celui-là, tu vois. Mais
il y a quand même une démarche presque routine workflow.
Oui, bah après c'est pour ça aussi que c'est un métier, tu vois. Mais par contre, moi dans ma démarche, le moment de création pure, j'essaie de le garder en dehors de tout ce truc de stratégie, en fait. Tu vois, là, c'est juste, je pose une mélodie parce que j'ai une émotion, elle se traduit par telle mélodie, tel élément, etc. Et je me concentre juste là-dessus. Et après, quand je me dis, ok, tiens, là, j'ai besoin d'un track que je vais aller jouer en club, ou là, j'ai besoin d'un truc où, je sais pas, c'est un format un peu plus ouvert ou quoi, là, je vais prendre
mes thèmes, en fait,
je vais prendre mes émotions et je vais les développer, tu vois.
Mais, c'est exactement pareil. Et je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour un producteur, c'est quand tu poses tes idées, tu crées et c'est sûr que parfois ça paraît quand t'as une super idée et tout ça, te dire il faut que je finalise, que j'arrange le track, tu te dis je sais pas si j'ai envie de me mettre là-dedans parce que c'est des questions qui peuvent être un peu plus redondantes de dire, alors que le meilleur moment c'est vraiment de créer, de dire ah ça c'est top, et ensuite tu te dis bon voilà j'en reste là et je laisse reposer.
Tout à l'heure on parlait de la pression et tout, moi jusqu'à il y a peu, ces périodes comme dans lesquelles je suis aujourd'hui où j'ai pas envie de produire des morceaux entiers, je les vivais super mal. Parce que j'avais l'impression que ça y est, j'avais plus d'idées, que c'était la page blanche, que je ferais plus jamais de musique. Enfin, les trucs que tous les artistes connaissent. Hein. Mais il m'a fallu du temps pour me dire, mais non, mais en fait, c'est normal, tu peux pas être dans le flow tout le temps, quoi. Et en fait, je me dis, ouais, là, juste pose des idées, tu vois. Et je me suis rendu compte avec le temps que toutes ces petites idées que j'avais posées, il y a des moments où j'ai le flow, là, je les reprends et je fais six morceaux d'un coup, tu vois. Mais voilà, c'est. En même temps, voilà, il y a du professionnalisme à avoir, tu vois, à respecter le public. Enfin, c'est un métier à un moment donné, donc effectivement, il faut un minimum de rigueur. Mais je pense que c'est vraiment important de se garder, comme a dit Joie, de garder du plaisir à faire ça. Parce qu'à la base, c'est un hobby. À la base, c'est un truc qu'on fait parce que ça fait plaisir.
La notion d'équilibre, elle revient dans plein de nos discussions. Oui. Effectivement, il y a un truc à trouver. Il faut qu'on parle de live, les gars, parce que le temps file, mine de rien, et c'est important. Victor.
Oui.
Est-ce que. Parce qu'encore une fois, parlons un peu des spécificités de la musique électronique. Je pense qu'il y a un truc quand même clair, on en a déjà parlé dans cette émission. La musique électronique en live, il y a une dimension un peu opaque pour le public. Qu'est-ce qu'ils font réellement? C'est quoi ces machines? Ils tournent un bouton, ça fait quelque chose?
Est-ce qu'elles sont branchées?
Est-ce que c'est branché? Est-ce que réellement il fait un truc ou c'est un backing track, tu vois?
Ou un record set, ça marche bien en ce moment, les record sets.
C'est quoi un record set?
Bah, y a pas mal de guettes avec des artistes qui jouent des sets déjà record.
Ah ouais, carrément.
Apparemment, ouais.
Mais un DJ set vraiment, mais genre.
On les oblige à faire ça.
Ah ouais?
Ouais, c'est sur la scène, surtout aux États-Unis. En fait, vu qu'ils ont des scénographies avec les flammes, les machines, etc., ils demandent à recevoir les sets en avance pour que tout soit calé. Je trouve ça d'une tristesse absolue. Mais, et du coup, t'arrives et tu mets une clé USB, tu mets play sur un truc qui est déjà habitué.
Alors là, tu pointes tout de suite.
Tu joues avec les gates et les filtres quand même.
Tu fais rien. Quand même.
Tu pointes tout de suite du doigt, justement, la suite de ma question pour Victor. Et vous exprimez aussi tous les deux.
Oui,
après,
je fais des records set. Non,
c'est est-ce qu'on a conscience quand même que le live de musique électronique, il nécessite une réflexion particulière autour de la scéno, autour de la mise en scène de soi, autour de l'incarnation surtout. Là où c'est un truc hyper naturel, hyper simple, parce que dans le rock, il y a déjà une iconographie, on voit le mec avec sa guitare, machin et tout. C'est pas pareil dans la musique électronique et ça demande une réflexion peut-être différente. T'es d'accord avec ça ou pas?
On l'a incarné parce que, à la base aussi, dans la musique électronique, on l'incarne de plus en plus parce que quand j'allais en club ou dans beaucoup de discothèques avant, le DJ, il était dans un coin, dans une pièce, il jouait et tout le monde dansait entre eux. Et aujourd'hui, le DJ et la personne qui fait la musique, il y a eu un peu une starification et tout le monde était devant lui.
Ça a été déjà un grand changement.
Ça a été un certain changement parce que du coup, le DJ était devenu une icône et était devenu un visage et on allait voir parfois un DJ et on savait à quoi il ressemblait alors qu'avant c'était des noms sur un line-up et presque on s'en foutait et l'important c'était vraiment la musique. Donc il y a eu ce fait que avec le développement et que le côté hype un peu du truc, le DJ était au devant de la scène, c'est-à-dire qu'on posait le boost au milieu et les gens étaient tournés vers lui. Donc de plus en plus, on a développé ça en disant on va mettre un visuel derrière, on va mettre des flammes, on va mettre du CO2, on va mettre des trucs. Donc il y a eu évidemment des dérives où c'était un show presque trop t'en parlais, où on est obligé d'avoir des sets record parce qu'il y a les flammes qui doivent tomber au bon moment et tout ça. Donc parfois je pense qu'il y a des dérives, mais c'est cool aussi de se dire que tu peux incarner ce que tu fais et tu peux créer des visuels derrière.
Mais est-ce qu'il y a aussi l'idée au-delà, alors évidemment la scénographie, le visuel et tout, mais par exemple toi, l'idée d'avoir une batterie électronique sur scène avec toi, c'est aussi pour dire, il y a un moment où mine de rien, l'instrument, il te permet d'avoir ce côté un peu chaud, de se mettre en scène d'une manière différente.
Pour me faire un kiff. Avant, jamais, je me suis dit, faut que je crée quelque chose. Je me suis dit, non, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué de la batterie. Je vais me faire un petit kiff. Je vais me mettre de la batterie sur scène. Comme ça, je pourrais jouer par-dessus. Et j'ai jamais pensé au truc.
C'était pas pour enrichir ton show ou un truc comme ça, quoi. C'était pas pensé comme ça.
Je savais que ça allait l'enrichir, mais c'était pour me faire vraiment un kiff personnel, quoi.
Ouais, moi, j'ai le même truc avec le clavier, tu vois. C'est-à-dire, je suis pas un très, très, très bon claviériste. Mais
tu joues des trucs live, par contre.
Oui, je joue, mais en vrai, je pourrais très bien envoyer des clips MIDI. Je pense que ça serait pareil. Je sais pas, tu vois. Mais à un moment donné, je suis en train de jouer sur mon clavier, tu vois. C'est-à-dire que j'ai quand même la sensation de faire quelque chose de vrai, entre guillemets. Quoi, tu vois.
Moi, je me suis jamais senti coupable de pas faire quoi que ce soit en live. L'important, ça a toujours été ce que j'écoutais, c'est-à-dire la musique, que ce soit en tant que producteur ou en tant que personne dans le public. Je sais maintenant que quand je vais voir un live, je vais écouter la musique que cette personne, elle produit, elle va raconter son histoire. De savoir que sur scène, il rajoute une batterie ou des synthés, si ça apporte quelque chose, c'est cool. Mais si il apporte un orchestre instrumental et des millions de musiciens, mais que ça me touche pas, bah, je vais me dire, bah, du coup, ça m'aura pas touché.
J'ai jamais fait
trop attention aux détails et à savoir ce qui se passait et si la personne jouait avec 12 synthés sur scène ou, enfin, tu vois.
Je pense que c'est surtout une question d'intention, en fait, parce que moi, je donne mon exemple du clavier où peut-être à un moment donné, moi, j'ai cette réflexion pour me donner un peu de contenance, tu vois. Ce qui est pas vrai, je pense qu'il y a quand même un intérêt au fait que je joue de mon clavier. Mais disons que ce moment-là où je joue mon clavier, ben, moi, je me sens bien. Je me sens légitime, entre guillemets. Du coup, ça me permet de kiffer mon moment. Et ça se traduit devant, en fait.
Tu absolument, vois, ouais.
Et au final, c'est pas, je dis pas, il faut un clavier, il faut faire un truc, tu vois. Enfin, Joa fait du live sans clavier. Mais Joa communique ça, lui, en tournant ses potards, tu vois ce que je veux dire. C'est pas...
Toi, Joachim, alors, faudrait qu'on parle aussi du live pact. Mais dans tes lives perso, individuels, c'est quoi, t'as tes tracks qui sont lancés, il y a pas mal de trucs automatisés, tu joues surtout sur les filtres, les effets, les trucs comme ça, tu joues quelques
Alors moi j'ai un live que je raffine depuis une dizaine d'années, on va dire, et à l'époque quand on faisait Hungry Music, les autres, eux ils m'avaient montré leur live et eux ils avaient vraiment des trucs.
Ce qui était un groupe que tu formais avant.
Bah, c'était un label avant qu'on avait avec Ento et Voracles.
Et vous tourniez ensemble, c'est ça, non?
Ouais. On faisait des grosses tournées et tout, et donc quand on faisait... donc eux, moi quand j'avais vu leur live, c'était beaucoup, à l'époque, beaucoup d'artistes faisaient des lives avec des stems, tu vois, donc bon. Et moi, en fait, j'ai un peu commencé à faire le live à ma sauce, quoi, et donc avec, presque tout est en MIDI dans mon live. Toutes les drums sont en MIDI, tout, et tu vois, si t'as une basse, c'est pas un export de ma basse, de mon morceau, c'est une autre basse, mais c'est un plugin, et tout est en MIDI. Donc en gros, j'ai un vrai contrôle sur à peu près tous les éléments. J'ai un vrai contrôle sur tout. Et alors là, l'étape un peu ultime récemment, c'est que je fais mes propres contrôleurs, donc j'ai des gros trucs, des machines que je fais moi-même. Bon, ok. Il y a un truc que j'ai remarqué dans le live, c'est que le truc le plus important, c'est pas forcément ce que tu vas faire ou quoi, c'est juste ce que tu communiques. Je vais enfoncer
si
les portes
ouvertes. Si tu t'amuses avec ton truc.
Tu communiques au public. Et donc, des fois, avoir un live trop intellectuel, tu vois, trop compliqué, qui va te forcer. Moi, c'est des défauts. De toute façon, la vie, c'est une oscillation. Tu vois, tu vas trop loin d'un côté, tu reviens, tu vas trop loin de l'autre côté. Bon. Donc, le fait d'avoir un live où il y avait trop de trucs à faire, ça me forçait à me concentrer trop sur ce que je faisais. Et donc, ça me déconnectait du public. Et des fois, tu te dis, mais en fait, tu vois David Guetta, il arrive, il lance son truc, il met les bras en l'air, tout le monde met les bras en l'air, et puis voilà. Et puis, toi, quand tu vas voir ça en public, tu te rends compte, en fait, si le mec, il sourit, tu souris. Si le mec, il fait la gueule, tu fais la gueule, quoi. Donc, en gros, moi, mon live, je l'ai raffiné pour avoir le maximum de flexibilité, mais aussi le maximum d'efficacité. Donc, il faut que je puisse être avec les gens et il faut que je puisse m'amuser. Et à partir du moment où je m'amuse, moi, pendant mes lives, je chante tout le temps. Je suis toujours en train de chanter mes mélodies et tout, que je sois tout seul ou devant avec 10 000 personnes. C'est pareil, quoi.
Et le fait
micro
que...
ouvert ou...
Micro ouvert. Alors, ça m'est arrivé. Alors, anecdote, une fois, je chante et tu sais, je prends une story en même temps. Je le fais rarement, mais tu vois, il y avait vraiment, je sais plus, c'était à Montréal ou quoi. Enfin, c'était vraiment cool. Je fais une story et tout en même temps de faire mon truc. Et je poste la story pendant que je joue et tout, tu vois. Enfin, je fais envoyer, enfin bon. Et je la réécoute et en fait, on m'entend, parce que je peux pas m'empêcher, en fait, ça sort tout seul et on m'entend chanter comme ça dans la story, mais genre ultra fort et à moitié faux et tout. Enfin, c'était une horreur. Et j'ai réécouté ça le lendemain, je me suis dit, c'est pas ouf. Mais c'est vrai que des fois, je pense que les gens au premier rang doivent m'entendre chanter. Hein. Je chante.
Mais Le public qui vient vous voir, en fait, il... en fait, finalement, c'est aussi compliqué de concilier les attentes du public. C'est-à-dire qu'il y a un public qui va venir pour voir la personne derrière les machines bosser, faire le truc, et d'autres qui vont être plus, effectivement, dans un truc, dans un délire de communion, tu vois, où ils veulent que quelqu'un lève les mains, tape en l'air.
Cette difficulté, elle est multipliée quand tu fais un live. Parce que quand tu fais un live, c'est ta musique. C'est que ta musique. Donc, disons, t'as 40 tracks.
Par rapport à un DJ set, tu veux dire.
Ta musique. Ouais. Et là, quand t'as machin qui vient, vas-y, il faudrait mettre un truc qui tape un peu, ou tu peux pas mettre plutôt ça, ou tu vois que les gens, ils réagissent pas parce qu'ils attendent autre chose, t'as un live. C'est mort.
Tu le prends pour toi direct.
Moi, ça m'est arrivé de faire un live, c'est de faire un truc en privé. C'était une soirée privée pour peu importe. Et la personne vient me voir et elle me dit ouais, je vous raconte pas, mais c'était pour une princesse quoi. Donc et elle vient me voir et elle me fait. Et donc il y avait des mecs qui m'avaient reconnu, qui étaient trop contents que je sois là, tu vois. Mais c'était un truc démesuré quoi. Et il y a quelqu'un qui vient me voir qui dit oui, tu pourrais pas mettre autre chose et tout. Je fais non, je suis désolé, j'ai été booké parce que
c'est mes morceaux.
Il voulait que je mette ça et tout. Elle fait ouais, mais c'est mon anniversaire, alors j'aimerais que tu mettes autre chose. Et là, tu vois, tu te dis bah oui, là, d'accord. Donc, tu vois, donc des fois quand tu fais un live, t'es un peu coincé pour ça. Donc, t'es coincé parce qu'il y a des gens qui vont attendre que tu sois en communion. En fait, il y en a qui veulent que tu sois un entertainer, tu vois, que tu.
Ouais.
Non, je raconte pas la suite de
l'anecdote. Non, attends, c'est quoi ceci? On veut savoir maintenant.
Je l'ai fait avec tes
Allez, je raconte la suite de l'anecdote. Bon, alors. Et donc mon manager de l'époque, il fait t'inquiète, on était au Portugal, il prend son téléphone qui était en 3G, il va sur YouTube, il met un set, il tape Kygo, DJ Mix, il branche ça dans la DJM et il dit vas-y c'est bon quoi.
C'est parti.
Ça a terminé en Kygo, DJ Mix. Les mecs de la prod, ils sont juste, ouais, vous avez bien fait et tout, très très bien et tout. Si elle veut ça, c'est très bien et tout. Ça a terminé comme ça. Moi, j'étais là, bon, bah très bien.
Et tu faisais quand même semblant de toucher à des trucs ou
non, moi, je remballais mon matos, quoi. Enfin, tu vois, après, ça tape. Tu apprends un peu l'humilité, quoi.
Il faut prendre du recul sur ces choses-là.
Ouais, voilà, c'est ça.
De toute façon, les plans privés, en général, tu vas pas pour.
Non, mais c'était le père de cette fille qui m'avait vu jouer à New York et avait adoré, il voulait absolument que je joue au truc, mais elle, je pense qu'elle aurait voulu autre chose, quoi. Mais bon, après, bon, peu importe.
Tu peux mettre du Maître Gims.
Ouais, ok. Non, mais tu vois, c'était un peu. Moi, je l'ai pas appris pour moi, mais bon, enfin voilà. Quoi. Mais c'est vrai que il y a des gens qui veulent que tu sois un entertainer, quoi. Donc que tu viens et tu vas mettre l'ambiance. Et il y en a, ils veulent une expérience mentale, tu vois, où ça va taper et puis ils vont prendre de la drogue et puis se sentir partir, quoi. Tu vois, c'est un peu les deux extrêmes. Mais tu vois. Bon.
T'as pas juste évoqué le fait que t'avais tout en MIDI, donc c'est pas de l'audio, c'est du MIDI. Ça fait que, enfin, qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce que par exemple tu changes des sons à la volée?
C'est-à-dire
que
ouais. Par exemple, un synthé, je peux ouvrir le synthé, le fermer. Je peux faire un peu. En fait, je peux faire un peu tout ce que je veux sur. Ouais. Alors, j'ai quelques pistes audio pour certains instruments et pour de la voix, des trucs comme ça. Mais ouais, je peux vraiment tout faire.
C'est-à-dire que c'est vrai que le setup de Joie, si je compare avec mon live perso, le setup de Joie est plus petit.
Okay.
Mais par contre, il est beaucoup moins écrit que le mien.
Okay.
C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment des trucs où tu vois la montée, c'est la montée, je l'envoie et moi, je joue dessus, mais il y a toute la structure qui suit. Et à ce moment-là, j'ai pas d'autre choix que de faire la montée. Mmh. Là où je vois, lui, c'est monté, il est fait à la main en fait. Tu vois. Mmh.
Mais t'as ton audio qui part dans tous les cas, et par contre, t'as la place pour poser des synthés en plus.
Ouais, mais aussi parce que je pense que je suis un peu moins astucieux que lui dans la façon dont j'ai construit le truc. Et d'ailleurs, là, je suis sur le point de le refaire, mon live. Et justement, comme on a bossé ensemble sur live, parce qu'il développe ses plugins aussi. Enfin, bref, c'est.
Non, mais de toute façon, on va en parler après. C'est un fou de connaissance
sans fond. Mais non, et en fait, le fait d'avoir fait le Live Pact ensemble, ça m'inspire sur beaucoup d'aspects. Et il y a des trucs de sa façon de faire que je veux reprendre, effectivement, pour gagner plus de liberté, mais que ça reste efficace, tu vois.
Après, on parlera de pacte, mais juste pour revenir à toi, Victor, est-ce que tu t'attelles aussi à faire des versions différentes quand tu joues tes morceaux en live, qui est des trucs. Est-ce que ça veut dire qu'en amont tu vas un peu remixer, faire des nouveaux edits, ou alors est-ce que globalement c'est quand même. Comment ça se passe un peu pour essayer de proposer une expérience différente de la simple écoute, tu vois, d'un album par exemple.
Globalement, sur une track, j'aurais du mal à vraiment changer les éléments de basse, de synthé, parce que je sais que si j'ai eu ce type et cette esthétique de synthé, j'aurais envie de recréer recréer la même. Mais je me suis aussi beaucoup basé, tu parlais d'efficacité, et c'est ce que j'avais vraiment comme maître mot sur le live, c'est de pouvoir être efficace, que ce soit dans la musique proposée, dans le setup, dans la façon de m'installer, de pas pouvoir faire trop de soundcheck, parce que aussi quand t'es en live, il y a aussi cette charge mentale de dire, je vais pas juste arriver et mettre ma clé. Je vais arriver, je vais devoir installer mon ordi, est-ce que j'aurai de la place, est-ce qu'il y a énormément de choses qui t'arrivent. Là on parle de choses techniques, mais il y a toujours eu, quand t'as des synthés, que tu ramènes des boîtes à rythme, il y a du midi, une fois sur cinq ton midi sauce, et voilà, il y a la peur du bug.
Ton setup un peu de base pour le live, c'est quoi globalement?
J'ai beaucoup réduit, je garde mon ordi, une carte son évidemment, beaucoup de, je me base beaucoup sur les percussions, donc je ramène souvent un pad, un hors pad, où je vais pouvoir rajouter des percussions. Là où en soi, je suis le meilleur, parce que moi c'est pareil, je peux pas caler forcément des beaux accords sur un clavier, parce que c'est pas là que j'ai fait ma formation.
Par contre les percussions
c'est cool, et ça aussi évidemment un côté visuel, et moi je m'amuse, c'est ce que tu disais, c'est important aussi de se dire, je vais pas me rajouter un synthé et en me disant ça va me stresser de faire les accords, je vais me mettre un pad, des baguettes, et je vais kiffer, et au final ce sera simple. Donc je me base vraiment sur le côté percussif, et tout ce qui est mélodique, synthé et tout ça, je laisse quand même une part, je peux les modifier, mais je sais que moi c'est pareil, les breaks vont être déjà arrangés. Et quant à demain en soi, c'est un peu compliqué de gérer énormément de machines et de créer ça. Il peut y avoir des moments de flottement. Donc franchement, j'ai au fil des années, et avec tous les problèmes que j'ai eu avec les machines, le MIDI, les trucs, j'ai vraiment réduit le setup, quoi.
Parce qu'il y a un truc aussi, vous me dites si j'ai raison, mais j'ai le live de musique électronique, il vient aussi beaucoup quand même de la culture du DJing en club, en tout cas. Ok. Sauf que la culture du DJing, elle passe. Alors évidemment, il y a la qualité de la sélection. Un DJ va se démarquer par le fait qu'il a une belle sélection, mais aussi par sa capacité à faire de belles transitions, par exemple, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a pas trop. Enfin, intuition, je me plante peut-être, vous me dites, hein, mais qu'il y a pas trop la place, tu vois, à la petite erreur entre guillemets. Là où dans la musique plus acoustique, on sait que c'est humain, c'est pas grave si tu veux entre deux morceaux, ça flotte un peu, machin et tout. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc comme ça.
J'avais la même question à ce moment.
Ouais.
Sur les moments de flottement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que par exemple, toi qui amènes des instruments aussi en plus, à un moment, pendant quelques minutes, tu vois, une vingtaine de minutes, vous jouez avec. Est-ce que ça fait qu'il y a quand même un peu, tu sais, presque une tension qui se joue, parce qu'il y a une culture d'un côté qui est aussi de l'humain et de l'erreur potentiellement, de l'autre, un truc peut-être un peu plus quand même dans la fluidité, tu vois?
Là où tu peux vraiment avoir cet effet de je me suis trompé, c'est en DJ set, ça c'est sûr. Quand il y a du mismatching entre les deux, les kicks sont pas bien calés et que tu as des différences. Évidemment, que là t'as cette sensation, et que les gens dans le public peuvent avoir, où ouais, il s'est vraiment trompé. Moi dans le live, enfin personnellement, je sais que quand j'envoie le clip avec les synthés que je joue par dessus, je peux difficilement me tromper, parce que c'est quelque chose qui est déjà calé. Les vrais problèmes et les vraies fois où on peut se tromper, c'est quand t'es DJ, quand tu mixes tes deux vinyles et qu'ils sont pas synchronisés, alors que nous normalement tout ce qu'on envoie, à part si on se met vraiment des bâtons dans les roues, c'est synchronisé.
Et ouais, après quand
ça m'arrivait de me tromper de scène, genre.
Ah oui,
sans moi, une des erreurs les plus classiques que je fais encore, hein, c'est je drop et j'ai oublié genre de défiltrer le kick. Donc, je drop, je fais comme ça, mais le kick, il y a pas de basse, tu vois.
Oui, mais en fait,
vois, ça c'est une erreur.
T'as raté ton effet, clairement.
Donc je rigole et tout, je refais une montée, je drop et puis.
Et voilà, dans le public, il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui se sont vraiment rendu compte. En fait, c'est des erreurs qui pour nous paraissent énormes, parce qu'on connaît tout sur le bout des doigts. Mais moi aussi, ça m'arrive d'oublier des reverbs et des trucs comme ça. Et tu regardes, tu l'enlèves, et en fait
quand tu fais tes percus, ou quand Joris pardon rajoute un synthé, etc., là il y a moyen de se planter, tu vas pas être complètement dans le rythme,
moi je me plante beaucoup, je fais beaucoup de fausses notes.
Et est-ce qu'on l'a, tu vois, ma question c'était, est-ce que dans le milieu des musiques électroniques, où il y a cette culture quand même de la fluidité, on accepte un peu ces erreurs humaines du live, quoi?
Écoute, alors je sais pas,
c'est pour ça que c'est un live.
C'est pour ça que je suis d'accord.
Plus cool, quoi.
Bah écoute, moi, et encore plus avec Pact, vu que tu sais, maintenant on fait le truc où on est trois.
Ouais.
Tu sais, j'ai plus le truc où je suis juste tout seul à jouer, tu vois. Donc le fait d'être trois, c'est qu'à un moment donné, je vais faire une fausse note et j'ai mes deux potes qui vont se foutre de ma gueule parce que j'ai fait une fausse note, tu vois. Okay.
Mais du coup, tu vas les regarder en disant c'est eux qu'on fait la fausse note.
Non, alors pour le coup, je peux pas trop faire, mais bon. Oui, je peux pas trop tricher là-dessus, mais en fait ça m'a un peu désacralisé aussi, le fait que des fois tu fais des fausses notes et bon, c'est pas bon, j'en fais pas tant que ça non plus, ça va, je sais jouer quand même, tu vois, mais Mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment cette peur, tu vois, de me dire, putain, je vais jouer, ça fait quoi si je me trompe et tout. Et en fait, tu te rends compte que dans une certaine mesure, c'est un peu cool, en fait. Tu vois, c'est,
Parce que t'es pas tout seul.
Le fait de faire une fausse note, c'est un peu l'équivalent de, tu fais un texte, c'est ChatGPT qui te fait un mail et tu rajoutes une ou deux fautes. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire genre que, ouais, tu vois, c'est quand même humain, c'est moi qui l'ai vraiment fait. Mais là, tu fais une fausse note, au moins les gens se disent, ah bah, c'est un vrai live, tu vois.
Ouais, c'est des fausses notes.
Un peu le process.
Parce que c'est sûr que dans un playback à la télé, en prime time, alors là, il n'y a pas de fausse note, tu vois ce que je veux dire? Parce que rien n'est branché et puis les mecs, ils font semblant.
Le futur, c'est de séquencer programmer des erreurs, en fait.
Tu vois, ça se fait beaucoup. Il y a plein de youtubeurs qui font ça. Tu sais, qui font exprès de laisser une erreur dans une vidéo, ouais, ou qui font exprès de faire une coquille, de faire un truc comme
dans
ça.
Le rap, ça.
Et claque, ça fait des tonnes de commentaires. Ah ouais, je t'ai trompé sur ça, machin. Mais en fait, c'est fait exprès. Ouais. Donc, c'est un peu. Bon,
après, c'est que le montage aussi, tu te dis, ouais, là, j'ai exporté le truc. J'ai vraiment pas. Tu vois, revenir dessus et refaire ma voix et machin, ça me pète les couilles. Donc, je vais mettre une petite mention comme ça.
Mais en tout cas, le fait qu'il y ait quelques fausses notes.
Oui, ça fait partie du
truc. Ça rend le truc encore plus humain et il faut presque le voir comme une valeur ajoutée dans une musique où tout est très très préenregistré, calibré,
toute proportion gardée,
préenregistré, enfin
toute proportion gardée. Si je fais des fausses notes à chaque morceau, ça va être relou.
Non, c'est de la musique atonale
pour les auditeurs.
Tu fais de la musique atonale et voilà, ça passe.
C'est sûr.
Avec Pact, votre spécificité, c'est l'interaction avec le public en leur proposant ses contrôleurs. Bon, petit point rapidos, Joachim, on avait discuté avec Romain d'Akintoy, etc., du fait qu'il y a plein d'artistes qui sont pas contents avec les contrôleurs existants. Ouais. Proposés sur le marché, ils disent non, moi j'ai des besoins spécifiques. Je sais pas toi si c'est ton cas d'ailleurs, Victor.
Je connais bien Akintoy et j'ai eu beaucoup de problèmes avec les contrôleurs et tout ça. Donc,
pas avec les siens, c'est pas ça que
non, pas
dire.
Du tout. Mais avec
j'ai eu peur.
Au contraire, justement, tu te dis que peut-être t'aurais besoin d'un petit
contrôleur personnalisé. Ouais. Et plus j'en vois et des artistes qui bossent avec eux, et plus je me dis que c'est trop bien.
Ouais. Et ben, toi, ce que tu fais, Joachim, c'est que tu le fais toi-même directement.
Ouais, ouais.
Tu fais tes propres contrôleurs, tu fais aussi tes propres plugins. J'imagine que c'est sous Max4Live. En fait,
sous Max4Live.
Bon, il est touche à tout. À la maison, tu sais, il a un garage, il a plein de machines, il a des imprimantes 3D.
Ah oui, d'accord.
C'est une formation d'ingénieur.
Ok, je vois le profil.
Tu vois le profil? Non, mais attends, pour dire même, complètement, c'est n'importe quoi, Joachim. Il va à certains de ses concerts à l'étranger en avion lui-même, puisqu'il est pilote. Et il a l'avion à la maison.
Sur quoi? Tu pilotes quoi?
J'ai un PPL, j'ai un petit avion 4 places.
Ouais. Ah putain, trop cool. Discute après. Okay.
Bon, c'est pour dire le niveau de geekerie. Tu vois, le niveau de geekerie chez Joachim. Comment vous êtes arrivé à cette idée de se dire, tiens, on va laisser le public pouvoir faire des trucs? Surtout, qu'est-ce qu'il peut faire le public? C'est quoi que vous leur mettez à disposition, ces contrôleurs?
Bah, il peut couper le son carrément, quoi. S'ils font n'importe quoi, ils peuvent couper le son.
Mais c'est-à-dire, ils ont accès physique à la machine, c'est quoi?
Alors, en fait, j'essaie de résumer en une phrase, mais en gros, on s'est dit, bon, allez, on fait un live, on voulait faire un nouveau projet ensemble et tout. Mais je voulais pas.
C'est quand même, c'est Joachim qui a eu cette idée en premier.
Ouais, on voulait pas faire encore un énième live. Bon, ben voilà, on met d'autres musiques ensemble, on remix, puis on joue. Bon, je disais, il faudrait qu'on ait une valeur ajoutée, un truc cool, quoi, un truc qui nous motive, enfin, je sais pas. Et donc, je me disais, bah, ça serait bien, vu que tout le monde maintenant parle de, tu sais, de casser les barrières avec le public et tout. Je me suis dit, bah, vas-y, viens, on le fait littéralement. Ouais. Et on fait des trucs sur lesquels les gens peuvent venir et ils peuvent interagir avec le son. Et c'est, en fait, c'est ça, c'est devenu un peu le concept de Pact, où bah, t'as des postes dédiés au public et les gens peuvent venir. Alors, la première fois qu'on a testé ça, on avait fait notre propre soirée au Badaboum, une soirée qui n'était pas annoncée, juste comme ça. Et en fait,
tout le monde était invité, on n'avait pas fait payer.
Il n'y avait que des gens civilisés qui n'ont pas ruiné. Il y avait un espèce de lien caché, les gens qui, les super fans, en gros, pouvaient trouver ce lien assez facilement. Ils s'inscrivaient et tout, et puis on voulait tester le concept, en fait. Et donc, le truc, c'est que le stage était carré, et en fait, il y a un côté du carré où il y avait des machines, et donc les gens n'étaient pas au courant. J'ai pris le micro, je dis, bon, bah, le concept de Pact, en fait, c'est que vous pouvez venir faire de la musique avec nous.
Et pendant tout le live, ils tournent.
Et donc, les gens, ils faisaient la queue, et puis ils venaient, puis ils restaient 5 minutes, ils jouaient et tout. Enfin, c'était ouf. Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a une machine où ils ont accès aux effets un peu master. Okay. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, pour que les choses soient efficaces. Tu vois, pour faire une montée, à une époque, j'avais un filtre, une réverb, un délai, tu vois, c'était trop compliqué. Maintenant, j'ai un bouton qui va me faire un filtre, voilà, avec une macro, okay. Donc qui va me faire filtre, délai, nanana.
Fait, c'est sur ces trucs-là, je te disais, j'ai pas été autant astucieux que
donc, en gros, tu tournes un bouton, ça te fait une montée, ça fait une montée avec un roll snare, ça fait des filtres, tu vois. Voilà. Donc, le public peut faire ce genre de trucs. Il y a des drums. Il y a un iPad, tu vois, qui fait des espèces de bruits de texture, riser, ouais, de riser, des
attends, des drums, ça veut dire qu'ils peuvent te ruiner votre rythme.
Alors le drum pad, il a beaucoup évolué.
Ouais, ça a évolué. En fait,
parce qu'au début, je prends un peu le risque.
Allez, vas-y.
Au début, on s'était dit bon, ok, parce qu'à chaque fois, la réflexion, c'est il faut que les gens, ils fassent quelque chose, que ce soit vrai. Qu'ils entendent ce qu'ils font, parce que ça aussi, c'est tu sais, quand tu connais pas la zik,
sinon c'est pas le jeu, tu vois, enfin c'est pas drôle.
Et que ce soit cool à entendre.
Que ce soit agréable, ouais.
Et au début, on met un drum pad, tu vois. On se dit, ouais, mais tu vois, pour mettre un drum pad, ce qu'on va faire, on va mettre un truc simple, on va mettre que des crashs, tu vois. Ouais. Parce que le crash, c'est simple, tu vois. Sauf que les gens, ils arrivent, ils prennent les baguettes, et tout le long, ça fait.
Ouais, ils tapent tout le temps, en fait, ils font n'importe quoi. Enfin, tu vois, il y en a qui sont. Ils savent ce qu'ils font, et il y en a qui font n'importe quoi. Mais c'est vraiment un carnage, quoi.
Ok. Donc vous avez enlevé les crashs.
Donc on a enlevé les crashs. Après, je me suis mis une déter, c'est-à-dire que sur ce drum pad, j'ai fait chaque morceau un kit de drum, tu vois.
Ok.
Avec, et il avait imprimé des petits logos en 3D. Donc à chaque fois, t'as un bruit qui ressemble à une snare, un qui ressemble à un hat, et un qui est.
Il y a 9 instruments. Il y a 9
ouais, voilà. Il y a 9 pads. Donc chaque morceau avait son kit de pad, tu vois.
Okay.
Et en fait, à chaque fois dans le kit de pad, il y en avait un qui était particulièrement cool. C'est un où on avait mis genre les notes de musique, et en fait, ça reprenait un élément du morceau. Okay. Tu vois, genre un petit bout de la mélodie ou un petit cut de voix ou un truc comme ça.
Ça déclenchait un petit sample du morceau.
Enfin, ouais. En fait, au lieu d'une note, au lieu d'une percussion, ça faisait une comme une note percussive. Tu vois ce que je veux dire, comme un petit
et qui est dans la mélodie, enfin qui est dans la gamme, ouais, évidemment, voilà, pour le morceau. Ouais. Et en fait, pas se planter, quoi.
Voilà, et on a commencé à tilter là-dessus, tu vois. Et puis arrivé avec le fait où, alors des fois, il y a des gens qui prenaient des baguettes et c'était super. Il y a eu plein de fois, malheureusement. Moi, chaque fois que je voyais quelqu'un prendre les baguettes, je commençais.
Si les gens font trop n'importe quoi, on peut quand même couper.
Ouais, mais bon, après, c'est dommage de faire monter des gens.
Mais pendant ce temps-là,
il est trop triste.
Mais pendant ce temps-là, vous faites quoi, du coup?
Après, il y a des fois.
C'est de l'ajout, quoi. Ils ajoutent des trucs.
Ouais, mais après, il y a des fois, quand les gens jouent vraiment bien, on s'arrête de jouer, on laisse faire les gens. Et ça, c'est vraiment cool.
Parce que, par exemple, les effets, les montées. Alors, il y a deux formats dans notre live. Il y a un format où on est carré, les gens sont devant, et là, on a changé un peu. Maintenant, même en carré, les gens sont entre nous, ce qui est beaucoup mieux parce qu'on peut leur parler. Parce qu'avant, des fois, j'étais en mode, ouais, vas-y, fais ça et tout. J'étais obligé de faire le tour pour aller leur parler. Tu vois, à la limite, fallait mettre un mode d'emploi près des machines. Donc là, des fois, j'ai quelqu'un à côté de moi, je dis, vas-y, on va faire une montée ensemble.
Appuie sur tel truc.
Voilà, des fois, je tiens la main à la personne et je dis, vas-y, on le fait ensemble, tac, ok, il comprend. Et après, je dis, vas-y, prochain break, c'est toi qui fais tu débrouilles, tu fais la montée, quoi. Et puis moi, je tu vois, alors des fois ça marche pas, mais des fois ça marche et c'est trop bien. Et
c'est génial.
Et là, les gens vivent leur meilleure vie quand
Il y a une bonne vibe, le public le ressent, c'est vraiment cool. Mais pour les drums.
Ouais, et pour en finir avec ce drum pad, et la dernière étape, et là je pense qu'on est pas mal, c'est qu'à un moment donné, on a voulu rajouter un instrument. On a discuté avec Joa et Théo, donc on voulait faire un clavier où en gros, tu peux pas te tromper.
Okay.
C'est-à-dire qu'un clavier où tu appuies, la note est toujours bonne et le son est toujours cool, parce que c'est important. Donc Joa développe un plug, évidemment, comme d'hab, chaque fois qu'on a un truc de son, Joa développe un plug, tu vois. Et donc il crée cette espèce de le perfect play, parce que chaque fois il met des noms.
Le perfect play,
Et c'est un espèce de, comment dire, d'autotune de clavier, on va dire, autotune MIDI, quoi, tu vois. Okay. Sauf que.
Mais c'est mieux que le truc d'Ableton de base où tu dois mettre des.
Oui, parce que t'as le scale d'Ableton qui est. Mais où tu mets juste une gamme,
là,
en fait.
Là, c'est beaucoup.
Là, en fait, ce qu'il a fait, c'est que t'as les accords qui sont en train d'être joués. Et ben, en fait.
C'est dynamique, il repère ce qui est en train d'être
joué. Il repère les notes de l'accord qui est en train d'être joué.
Ouais, t'as une piste guide avec les accords. Donc, en fait, tu mets les accords que tu veux, tu mets les notes que tu veux. T'as même pas besoin de connaître le solfège ou quoi. Tu mets les notes que tu veux. Et ça va faire comme un entonnoir. Et toutes tes notes vont tomber, tu vois, au plus proche de ces notes.
Par contre, ça veut dire que la tonalité sera la bonne. Par contre, en termes de rythme, ils peuvent quand même se planter au niveau rythmique.
Alors, c'est
synchronisé derrière. Alors, en plus.
On a mis, la plupart du temps, c'est beaucoup de sons qui sont RPG. Il y a un arpégiateur dedans. Donc, ça va.
C'est encore plus cool quand tu joues, c'est ouf.
Ouais, voilà. Quand il n'y a pas d'arpégiateur, on a mis comment ça s'appelle?
Un train léger
Quantize. Ouais, un Quantize pour que ce soit à peu près. Bon, le problème du Quantize, c'est que si t'es un tout petit peu en retard, il va se caler sur la valeur d'après, mais bon, c'est quand même mieux. Le dernier problème qu'on a, c'est que les gens, faut qu'on arrive à leur expliquer que c'est pas parce qu'ils ont un clavier ou des drums, ils sont obligés de jouer tout le temps.
Ouais, des fois, tu fais ta petite mélodie, c'est cool, mais il y en a, ils sont là, ou tu sais, ils font des drums,
ils s'arrêtent jamais
ça pendant une minute, le mec, calme-toi, essaye de faire une mélodie, quoi.
Par contre, c'est génial comme forme de partage avec le public. Toi, Victoire, t'imagines laisser, t'as déjà fait peut-être d'ailleurs des trucs, tu sais, dans le rock, par exemple, ça se fait, tu sais, genre, vas-y, quelqu'un joue de la guitare ici, viens jouer avec nous.
Non, moi, ça m'est jamais arrivé, et sur le live, j'ai jamais trop, trop réfléchi, mais je trouve ça trop cool. Je pensais à Kink aussi, qui faisait pas mal.
Bah, ça a été nos influences, pour
ça. Ouais, on s'est dit Kink, il fait ça, souvent, il se donne une petite machine.
C'est quoi Kink, je connais pas.
Kink, c'est un artiste qui fait aussi du live et qui laisse beaucoup de place à des gens random dans le public. Il leur passe une drum machine, un synthé, il joue par-dessus. Et...
Parce que lui, son live, déjà, est très...
C'est hardware. Hein,
ouais, c'est très hardware. Ouais. C'est même un peu chaotique, parfois, mais dans le bon sens du terme.
C'est beaucoup de gadgets, en fait.
Ouais. Et à chaque fois, il y a un truc qui va filer au public et les gens vont déconner avec. Et ça se prête bien à la musique qu'il fait en plus, parce qu'elle est assez un peu fofolle, on va dire, tu vois. Donc voilà. Et pour finir avec notre drum pad, on a mis au point ce clavier, tu vois, donc qui corrige. Et en fait, on a repensé au fait qu'il y avait ce pad à chaque fois qui était le plus cool. Il y avait un élément du morceau. Mmh. En fait, on s'est dit, on va mettre le même principe que le clavier, mais sur le drum pad, parce que le drum pad, c'est un contrôleur MIDI en fait.
Ouais, ouais.
Donc on met ce qu'on veut dessus. Donc ça envoie des notes. Et on a choisi des sons, tu vois, mélodiques, mais un peu percussifs quand même, que ça, avec le côté où tu tapes avec des baguettes. Et du coup, ça fait des petits bouts de mélodie, un peu et donc c'est plus vraiment de la drum. Mais par contre, il y a toujours un truc, c'est qu'on peut le switcher en mode expert. Et mode expert, tu repasses sur le mode avec les drums pour chaque. Okay. Voilà. Et ça, on le met quand c'est quelqu'un qui sait jouer, quoi. Sinon.
Mais le truc où les drums sont mélodiques, c'est que, par exemple, si t'as un pad qui va faire, un la, bah peut-être qu'à la corde après, là où tu tapes,
il va te faire un do,
tu vois ce que je veux dire. Enfin, ça va changer. Tu vas taper au même endroit, mais ça va faire une note différente. Ouais. Mais ce qui est trop cool, c'est que tu peux faire, entre guillemets, un peu n'importe quoi, et ça va toujours sonner. Ouais. Nickel, et c'est bizarre, mais à jouer, c'est ultra agréable.
C'est ultra satisfaisant.
Et j'ai même des potes, je ne donnerai pas les noms, mais j'ai même des potes qui savent jouer, qui jouent en live et qui utilisent mon plugin. Parce que eux, ils sont sûrs que s'ils font une fausse note, mon plugin corrige la fausse note, mais juste la fausse note, mais ils savent quand même jouer. Si tu fais pas de fausse note, mon plugin sert à rien. Mais le jour où tu fais que tu te foires un peu ou quoi, hop, le plugin, il te sauve, quoi. Et donc, c'est un peu le fait de pas avoir de stress. Mmh. Tu vois, si t'es à l'aise à la maison, mais qu'en live, c'est quand même plus dur de jouer parce qu'il y a les lumières, tu vois rien, t'es bourré, j'en sais rien. Bah là, au moins, ça te relaxe. Et le fait d'être relaxé, d'être moins stressé, meilleure vibe avec les gens. Ouais,
je tiens à préciser que je n'utilise pas ce plugin.
C'est pas lui.
Mais cette partie-là, live participatif, c'est combien de temps sur un live que vous faites C'est une séquence ou c'est en filigrane?
Enfin, ça dépend. Badaboom, c'était presque tout le live, parce que les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient venir, voilà. Il y a certains shows où on est en scène centrale, c'est-à-dire qu'on est au milieu de la fosse, avec notre carré, là, et les gens peuvent venir. Il y a d'autres shows où, malheureusement, c'est des gros festivals ou quoi, Touquet Music Beach, on est en linéaire sur la scène. C'est ça qui nous a donné l'idée de mettre les gens entre nous, et on s'est rendu compte que c'était mieux, parce qu'on peut leur parler, et donc on peut leur expliquer un peu, les guider, donc c'est encore plus cool. Et puis, il y a encore plus ce côté proximité avec les gens, tu vois, et puis aussi, autre truc, quand les gens sont en face, ils bouchent la vue à ceux qui sont derrière. Alors que là, quand ils sont
en plus, ils tournent le dos. Genre,
ouais, ils tournent le dos, il y a
plein de défis, effectivement.
Ah ouais, c'était. Mais je sais plus où j'allais avec mon histoire là, mais en tout cas, c'est une bonne fin. Hein. Dans ma tête, ça marchait.
ça donne très envie d'aller voir votre live, justement, et d'expérimenter. Toi, Victor, tu pourrais imaginer passer un set un peu full hybride? C'est-à-dire, tu sais, vraiment, le fait que vous jouez, que ça soit quasiment l'intégralité du set. Alors, pas les 6 heures quand tu fais les all live long, c'est trop long. Mais genre, tu vois, tu fais un concert d'une heure et demie, 2 heures, et que tu sois vraiment quasi en mode band, quoi.
Ouais. Bah, j'ai une date qui est prête.
C'est vrai?
Ouais, fin de l'année à la Gaîté Lyrique.
Trop bien.
On va faire un concert où ce sera pendant une heure et demie, et il y aura... moi, je serai à la batterie, il y aura un synthé, une guitare et une basse, et ce sera en format concert, quoi. Donc,
c'est courant dans les musiques électroniques de faire ça? Parce que j'ai l'impression que c'est... Parce que t'es une figure montante de la scène, et ce qui est souvent pointé du doigt sur ton... C'est ta capacité à faire des lives cool, quoi. Et tu penses que ça passe aussi par ça, justement
Encore une fois, j'ai pas réfléchi à ça. Ouais. Mon premier truc, c'était j'ai envie de refaire des concerts, j'ai envie de refaire de la musique avec un groupe. Comme je l'ai fait au Cabaret Sauvage et au Trab l'année dernière, ça a duré 20-25 minutes, mais pendant 20-25 minutes, j'étais content, je jouais tout ça. Là où quand tu fais un live ou de la musique électronique tout seul sur scène depuis un certain temps, parfois il te faut un peu un regain de motivation et d'énergie, c'est normal parce qu'il y a un effet de loop, de cycle, et c'est cool d'avoir des nouveaux projets. Mmh. Et moi, ce nouveau projet, c'est en ce moment ce qui me faisait kiffer, ce qui me rajoutait un peu de variété dans la musique électronique et dans le live. Donc là, ouais, je bosse sur un format concert où on sera sur scène et tout sera joué. Bon, évidemment, il y aura Ableton derrière pour des effets, des
comme quasiment comme tous les concerts d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, ouais, il est important, mais ce sera joué. En fait, on pourra faire le. Tu peux développer un morceau sur 5-6 minutes. Tu peux faire tes solos. Il n'y a pas forcément de barrière en disant ah bah mon break il arrive, mon drop va arriver à ce moment-là. Donc ouais, c'est le format que je développe. Et à la base, c'était vraiment pas pour me dire pour penser à quoi que ce soit. C'était ok. 20-25 minutes, c'était cool, mais je veux plus. Maintenant, je vais faire une heure et demie.
Et tu te vois faire ça, que ce soit ton type de live dans le futur, ou tu garderas quand même différentes approches, tu vois?
Non, je pense que l'un nourrit l'autre, en fait. Ce que j'ai toujours détesté, c'est être obligé de faire la même chose, tu vois. Pareil, vitesse et grand V, ils se nourrissent l'un de l'autre. Si je fais beaucoup de live sous vitesse, à un moment, ça me fait un peu respirer de jouer des trucs Eurodance à 145 BPM et de lâcher un peu plus les chevaux, tu vois. Et derrière, inversement, je serais content de retourner sous du vitesse. Donc là, j'ai estimé que sur le live, sur scène et tout ça, j'arrivais à avoir de la nouveauté, mais que rajouter une batterie et rejouer de la musique en groupe comme avant, il me fallait encore ce bol d'air frais pour me dire ok, je repasse sur l'autre projet avec encore plus de plaisir, et que chacun, j'ai pas envie d'arrêter vitesse et de me mettre que sur du projet sur scène en live avec la batterie, mais je veux que les deux s'auto-alimentent en gros.
Est-ce qu'il y a aussi comme une dimension, parce qu'on n'a pas trop parlé, peut-être qu'on terminera là-dessus d'ailleurs l'émission pour dans le cadre Pacte aussi, mais toi Victor, tu peux nous dire déjà, parce que ça se produit un spectacle, c'est-à-dire qu'il y a aussi des moyens, il y a un budget, tu vois, pour créer un spectacle.
Bien sûr, ouais.
Est-ce que plus on rajoute des gens, plus on le fait un peu plus bend, plus ça veut dire que ça coûte cher et donc c'est compliqué à monter. Absolument.
Mais moi, encore une fois, j'ai la chance d'être dans la position où je réfléchis pas trop à ça. Évidemment, j'y réfléchis et je bosse avec mon agence qui s'appelle Chevry Agency, qui produit ce tour avec moi, là où quand je fais 6 heures de live. Donc quand je suis tout seul à jouer pendant 6 heures, il y a moins de problèmes. Mais quand je leur ai dit que je voulais faire un format concert, j'ai commencé à leur parler guitariste, bassiste, synthé, ingé son, vidi. C'est comme ça. Et voilà, mais en fait, j'en ai besoin et j'ai pas envie de me mettre des contraintes financières par rapport à ça, en me disant là il faut économiser, donc il faut pas, enfin on peut pas se permettre ça ou quoi. Non, là je fais le truc à fond et je veux vraiment que ce soit un show à proprement parler, un concert. Donc mais évidemment que c'est des productions qui demandent un peu d'argent.
Ben non, mais sinon tu fais comme Pacte et tu fais jouer le public.
Les branleurs de Pacte, ils laissent
tout le monde avec. Vous faites travailler les gens qui ont payé leur place.
Ouais, c'est terrible. Attendez d'avoir des gens du public qui sont aussi avocats, tu vois, et droits en propriété intellectuelle, qui vont dire attendez, j'ai joué pendant 5 minutes, je réclame une part du cachet.
Tiens, bah attends, tu sais quoi, regarde, un truc qui va bien avec ça, c'est que nous, quand on a fait le label, on voulait garder cet ADN que les gens jouent avec nous et tout. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des petits lives Insta avant les shows. Et il y a des gens dans les lives qui avaient dit « Ah, mais on va faire un mot de passe comme ça. Nous, on a le mot de passe, on peut venir sur scène demain facilement et tout. » Bon, donc c'est parti un peu sur ça. Et au final, le mot de passe, c'est devenu bah, « Ok, le prochain nom de la par exemple, le prochain single.
» Oui, le nom du prochain
single. Voilà, excusez-moi, le nom du prochain single. Et au final, il y en a qui sont venus avec des pancartes et tout. Et c'est devenu un truc où maintenant, quand il y a des singles, les gens ont dit bah ok, ce soir c'est The Edge, donc venez avec des pancartes The Edge et tout. Il y en a, ils viennent avec des trucs mais ultra bien produits. Il y en a qui font des t-shirts The Edge et tout. On prend tout ça en photo et à la fin la cover de l'EP, c'est une des photos du public avec le truc The Edge.
Et dans le canvas sur Spotify,
on fait défiler toutes les photos et tout. Donc tu vois, on essaie d'intégrer le public aussi. Là-dedans.
Et il n'y a personne qui dit j'ai pas signé de décharge.
Ça, on disait, quand si on prend l'avocat en photo, il va dire
droit à l'image.
Il n'y en a pas beaucoup.
Faire attention.
Les dates Pacte, les tournées, une tournée Pacte, c'est, par exemple, ça représente plus de moyens, le fait, tu vois, d'avoir les contrôleurs en plus pour le public. Ouais.
Horrible.
Ça coûte cher à faire.
Non, bah, non, en fait, c'est pas que ça coûte cher, mais c'est que moi, je fais une date demain, je joue à Neuchâtel. Bon, bah, j'y vais, j'ai ma péliquée, j'ai mon matos, j'ai mes trucs, j'y vais, et puis je m'installe, je fais mon line check et tout. On fait une date avec Pacte. On a 4-5 pellicays avec tous nos trucs. Il faut qu'il y ait un tour manager parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère les gens qui vont monter, pas monter. Enfin, tu vois.
Ouais, mais encore ça va, je trouve. Hein.
Non, mais ça va, c'est pas une giga.
Juste quand tu dis les gens qui vont monter, c'est-à-dire que l'accès au contrôleur pour le public, c'est qu'il y a quelqu'un qui leur dit aussi à un moment, les gars, il faut bouger un peu.
On est obligé de carrer parce que des fois, il y en a qui sont bourrés. Des fois, il y en a qui font n'importe quoi. Il y en a qui veulent pas, il y en a qui
veulent pas lâcher.
Mais c'est toujours bienveillant. On n'est pas à mettre, on n'a pas des videurs. Tu vois. Mais
pas
par
encore.
Exemple, quand on joue, si on fait Touquet Music Beach, bah, la scène pour rentrer, pour aller, tu vois, c'est pas pareil que quand on est en scène centrale et que les gens peuvent venir, quoi.
Donc, puis, il y a un équilibre même dans le show, encore l'équilibre, hein, toujours. Mais il y a un équilibre à trouver entre c'est cool, les gens jouent avec nous, tout ça. Mais en même temps, faut pas non plus désacraliser entre guillemets notre prestation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus juste pour écouter du son et ils ont pas forcément envie d'avoir des gens random qui
viennent saccager leur morceau du truc non plus, quoi.
c'est notre gimmick, c'est la valeur ajoutée, mais c'est aussi l'expression du ressenti qu'on a nous vis-à-vis de notre public et comment on veut partager les choses, tu vois. C'est là qu'il est important, mais c'est pas sur tous les morceaux. En général, on fait un morceau sur deux et on fait attention à cadrer un peu les interventions, que ça dure pas des plombes, quoi, tu vois, parce que
comment tu fais, tu mets une balayette au mec,
c'est le tour manager,
il est très costaud, déjà il a peur,
moi la personne qui fait les effets master, donc qui coupe le son et tout. Bon, mais on a un espèce d'effet quand tu tournes à fond, ça fait comme un truc radioactif, comme un compteur Geiger, et donc ça fait à la fin, ça fait plus que des bruits comme ça. Bon, bah, des fois t'en as un, il tourne ça et puis après il est coincé. Alors des fois ça fait un fail, ce qui est aussi marrant sur les réseaux, tu vois, ça fait des bonnes vidéos. Mais quand il y en a qui se mettent à tourner tous les boutons n'importe comment et que ça fait n'importe quoi, moi j'ai un dry wet sur leur
truc.
Je peux couper gentiment. Et après ils sont là, ça marche plus. Je suis là, bah ouais, tu as fait trop n'importe quoi, donc ça marche plus. Tu vois,
c'est le grand frère qui te passe la manette deuxième joueur, qui est pas branché. Vas-y, joue.
Bah, c'est un peu ça. Et on a ça avec tous les trucs. Le piano, c'est pareil. Les drums, c'est pareil. On peut couper gentiment les gens.
Oui, il y a quand même des moyens de leur faire comprendre.
C'est toujours une bonne vibe.
Il y a une prochaine étape, c'est j'aimerais bien qu'il y ait un truc visuel. Oui. Qui t'indique que le truc est aimé ou pas.
Game over, quoi.
J'ai pensé juste, tu vois, on met juste des barres de LED autour des instruments. Tu vois, quand ils sont allumés, c'est bon, tu peux y aller. Genre, tu sais, quand on coupe, on contrôle le truc.
Visuellement, ils savent que ça marche plus. Tu vois, parce que des fois, il y en a, ils continuent de tourner.
Les gars, j'ai un concept pour vous. Vous enlevez toutes les synchros, les machins et tout, et vous faites la gamification du truc. C'est-à-dire que si à chaque fois ils sont dans les temps, si la bonne note et tout, ils gagnent des points, ils continuent à jouer.
Et s'ils
se plantent, ils dehors.
Avec une barre de vie, et puis.
Exactement.
Ça serait marrant.
Non, mais on y est déjà évoqué des trucs.
On avait pensé à un truc, mais.
Et vous mettez une trappe sous la scène.
C'est
le mec tombe.
Ah ouais, c'est le maillon faible, tu vois.
Ah, il y a encore de la marge d'évolution.
Ah, il y a des trucs à faire. Hein.
On a plein d'idées.
Bon, Victor, à quand le brevet de pilote pour aller aussi à tes dates en avion?
Je vais le passer.
Je te le recommande moyennement.
Tu es monté déjà avec Joris?
Alors, oui, je suis monté avec lui, c'est super, mais il y a beaucoup plus de contraintes qu'on l'imagine.
Ouais, c'est quand même. Bon, c'est un truc que tu fais un peu pour le plaisir, mais.
Ouais, c'est chiant.
Ouais, c'est cher et chiant. Bon, bah, très bien.
Bon, on ne recommande pas l'avion personnel.
Ouais, non, mais.
C'était hyper intéressant, les gars.
Ouais.
Merci pour toutes ces discussions.
Merci à vous.
Merci à vous, ouais.
On a une tradition dans cette émission.
Ah, putain.
C'est les recommandations. Tu sais
quoi ? Ils sont trois.
Ouais, on les laisse faire les trois. Ouais. C'est en fait un morceau de musique, soit un de vos classiques, soit un truc que vous avez découvert récemment, peu importe le genre, ça peut être dans votre esthétique à vous.
Genre là, il faut qu'on choisisse un, c'est ça ?
Exactement.
Ouais. Ah oui.
Et on s'écoute un petit extrait. On peut vous laisser quelques minutes pour trouver le morceau et tout. Ça peut être l'occasion pour Joachim de nous montrer une autre facette de sa personnalité, de ses goûts musicaux.
Ouais, tu vas pas être déçu.
Ah ouais, trop bien.
Pourquoi pas.
Ah bah c'est bon, alors je vais te mettre
de la chance.
On peut sortir des musiques électroniques.
Tu veux plus du death metal ou du piano ou
un morceau que tu kiffes. Un thé classique éventuellement.
Allez, vas-y, tu sais quoi, on n'a qu'à partir sur un de mes groupes préférés de tous les temps. excusez-moi, c'est du power metal, tu vois, okay. On était dans les, et donc ça s'appelle, c'est Sonata Arctica.
Je vois bien, ok.
Donc A-R-C-T-I-C-A, Arctica, et je sais pas ce qu'on peut écouter, si on peut écouter... je sais pas, Replica, vas-y, Replica.
Okay. Bon, ils sont un peu dans un délire aussi quasi métal symphonique aussi, un peu, Sonata Arctica. Ouais, c'était proche de ça, à un moment.
Alors,
en tout cas.
Ouais, plus maintenant, mais à l'époque des albums Ecliptica et Silence, c'était vraiment power metal. Enfin, c'est pas comme Nightwish, tu vois.
Oui, bien sûr, c'était que ça. Mais
ouais, okay. Voilà.
Okay, donc, Replica, le morceau.
Mais il est connaisseur. Sinon, on met du Calma, hein, si tu veux, Calmar. Mais, ça va être du death metal, alors, trop, un peu trop violent. Pour,
Replica, Sonata Arctica.
Allez, vas-y.
C'est parti, on s'écoute un petit extrait.
Ça, ça, c'est la musique que, presque que j'aimerais faire.
Enfin, c'est vrai. Pendant c'est ce temps, Joris, Vitesse, réfléchissez à votre morceau. C'est parti.
En plus, il y a une intro de 2 minutes.
C'est vrai, non. Il nous le refait le même coup. On avancera si besoin. T'as mis un morceau soft.
Hein. Ah, ouais,
très soft.
Je suis un peu déçu, moi, je m'attendais sur plus votre
défaite. C'est vrai, bah non, bah, je sais pas, je voulais pas non plus faire partir les gens.
Donc, bientôt un album dans ce genre-là ?
Oh, j'aimerais trop. Non, mais vraiment, c'est... Bon, après, j'ai grandi avec ça, mais pour moi, au niveau de la richesse des... de tout, tout est... c'est parfait, quoi. Y a, tu vois, il y a de l'énergie, de l'émotion, c'est beau, c'est... Voilà, j'adore. Bon. Bon, après, j'aurais pu mettre un milliard de trucs, enfin, je sais pas, c'est trop... produire ce genre de questions.
Mais c'est très bien d'avoir choisi Sonata Arctica. Je pense qu'on n'avait jamais mis de Sonata Arctica dans cette émission. C'est
vrai. Mais vous connaissiez ?
Bien sûr.
Ah ouais, bah voilà.
Pas du tout.
Pas du tout, bon.
Pas du tout.
Mais j'ai eu ma période adolescent métal.
Ouais.
Mais j'étais plus les trucs symphoniques. Enfin, là c'est la période avant, effectivement. Mais si, tu vois, du Children of Bodom, par exemple.
Ouais, tu vois.
J'ai bien aimé à l'époque, tu vois. Ouais. Joris, Vitesse.
Il faut que ce soit un track en commun ou
non, chacun.
Bien sûr. On devait se concerter.
Oui, Joachim y choisit, mais pas vous.
Toi,
un de tes classiques, Joris, ou un morceau que t'aimes bien.
Bah, tu sais quoi, hier, je réécoutais un morceau que j'adore, c'est assez connu, mais Citizen Erased de Muse.
Ok.
Voilà, qui dure 7 minutes, hein, donc pareil.
Il faut choisir au bon moment.
Extrait choisi. Ouais.
Et bah, on va mettre le début, parce que je sais pas où switcher dans le morceau.
Non, pour le coup, il commence quand même assez vite.
C'est vrai? Et bah, ouais. Parfait. Let's go. Donc, Citizen Erased, je sais pas comment on va prononcer, Muse.
Erased.
Effectivement, le morceau dure 7 minutes, mais dès le début, ça démarre. Donc,
mais après, il y a des périodes plus planantes.
Ça évolue, ça change.
Il y a un solo de guitare qui est absolument ouf, où j'arrive à détruire sa guitare. Enfin, c'est trop bien.
Victor, Vitesse, Vitamine, Grand V.
Ce que je réécoute à fond en ce moment, c'est Snarky Puppy.
Ah, cool.
C'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire presque de la musique. J'en jouais avec mes potes et on était vachement dans ce délire-là.
On en a parlé il n'y a pas longtemps dans l'émission.
Ah ouais, Skate You.
Ok.
Et tu sais, ils font sur YouTube, t'as le live. En fait, ils ont enregistré leur album en live avec des gens qui écoutaient au casque et tout.
Trop bien.
Et là-dessus, t'as le solo qui commence à partir de 4 minutes.
Ok.
C'est un solo d'Orgamon.
Est-ce qu'il est en train de me dire, mets le solo d'Orgamon?
Ah, c'est... Ouais, c'est ça.
Tu sais quoi, je mets 1 minute. Ouais. D'abord du début. Okay. Et après, je switch. Vers 4 minutes, tu me dis, c'est ça?
Ouais.
Ça me met le solo. Allez, c'est parti. Skate You, Snarky Puppy. Un petit peu à 4 minutes, je pense.
4 minutes 30. Ouais.
C'est quoi comme style ça?
Oh, c'est jazz funk, je sais pas.
Fusion pour jazz le coup, fusion, ouais. Le mot de fusion aussi. Ouais. Il est pas mal là-dessus parce qu'il rajoute énormément de variété, de codes d'autres musiques et tout. Donc ouais, ouais.
Est-ce que c'est progressif?
Il y avait une vibe un peu city pop japonaise dans ouais, la
pourquoi prochaine. Pas, pourquoi pas, cool, effectivement. Ouais.
Mais dans cet enregistrement, je me souviens, il y a un passage où il y a un gars qui fait un solo avec un Moog. Avec un. Il n'y a pas un petit Moog noir là, et il fait un truc.
Et en fait, il passe sur 7 minutes, chacun a son solo, il décompose. Je crois que c'est peut-être le bassiste qui fait un solo de Moog aussi. C'est que des énormes brutes de la musique, ouais. Et ils vont au plus profond de la track et des accords. C'est assez ouf.
Ouais. Et commercial, mais.
Et toujours de trop belles vidéos aussi sur YouTube et tout.
Ouais, c'est trop bien à regarder en plus. Tu regardes ça et tu regardes tout seul. Et c'est dans des super beaux studios et tout. Enfin. Moi j'aimais beaucoup, ouais. Enfin, j'aime toujours.
C'est un métier, hein.
C'est un métier.
Ouais, il faut rendre ça sexy même en vidéo maintenant.
C'est vrai. Victor, Joachim Pastor, Joris Delacroix, merci beaucoup. Allez, écoutez, c'est quoi un peu des dates, quelque chose de prévu un peu à l'actu?
La prochaine tournée de All Live Long, c'est en novembre.
Ok.
Donc avec les villes comme Paris, au Cabaret Sauvage, à Lyon, Marseille, Bordeaux.
Trop bien.
Et donc du coup, le live qu'on va annoncer bientôt en mode concert à la Gaîté Lyrique, un peu plus tard, à la fin de l'année.
Voilà. Trop bien. Pacte, les gars, c'est des grosses dates prévues
Ça arrive là. La deuxième partie de la tournée, là, ça reprend. On reprend la tournée en juin.
Ouais,
non, on a dû. Là, cet été, on va au Maroc, on a Avignon, on a les vieilles charrues, on a Marseille qu'on vient d'annoncer, et puis ça va continuer sur cet automne avec.
Il y a plein de dates qui sont confirmées, mais pas encore annoncées.
Ouais,
mais
pas encore annoncées, on est en train de finaliser tous les deals.
On a déjà au moins une quinzaine de dates, je pense.
Très bien.
Et puis moult sorties sur le label aussi qui arrivent.
Et nos dates solo aussi, parce que Pacte, c'est une partie, c'est un nouveau projet, mais on a toujours nos dates solo.
Perso, j'en ai plus moi, mais
il a tout mis dans Pacte.
Et en effet, comme disait Joris, vu que Pacte est aussi un label, et donc il y a déjà pas mal de sorties qui.
Mais ça va être des sorties que de vous trois avec Théo, ou c'est aussi des gens extérieurs et tout?
Alors, pour l'instant, c'est que nous trois.
Pour le moment,
mais indépendamment aussi.
Voilà, c'est ça. Pour le moment, les deux premiers singles, ça va être des tracks qu'on a fait ensemble, tous les trois. Et ensuite, il va y avoir ça va être un peu notre espace de liberté, comme on disait, où on va pouvoir faire ce qu'on veut, aussi bien en solo ou en remix ou faire. Voilà. Et je pense qu'à terme, on va aussi ouvrir à d'autres artistes.
Très bien.
Quand ça sera bien.
Bien installé.
Installé.
Bravo.
D'ailleurs, t'as des dates de prévu?
Moi, j'ai des dates, ouais, bien sûr. Je dois payer l'URSSAF dans. non, j'ai rien de spectaculaire.
Non, mais les streams.
Oui, bien sûr, toute la semaine, tout le temps.
Tout le temps.
On se retrouve sur Flight Sim ce soir, mais en fait, vous verrez ça dans 3 ans. Donc, c'est pas
et Joachim, il fait du Flight Sim
en vrai. Oui, en vrai, c'est ça, c'est pour ça, faut qu'on discute.
Bon, évidemment, un grand merci à la team Bouclette pour la technique.
Eh oui. Iris Lafsam.
Ouais.
Je le dis.
Absolument.
Ouais.
François
au montage, bien sûr.
Absolument, merci François.
Évidemment. Et ouais, François, 2h30. merci beaucoup pour tout.
Merci évidemment aussi à Thoman.
Thoman,
grâce à qui on fait cette émission. On pose la question, c'est traditionnel. Vous avez déjà acheté chez Thoman?
Jamais.
Maintenant, il fait ses contrôleurs.
Non, on achète beaucoup chez Thoman en plus. Pas qu'on a. C'est vrai qu'on achète beaucoup.
Moi, j'ai pour projet un jour d'aller au magasin de Thoman.
Tu sais quoi? Alors, toi, t'es client Thoman, j'imagine.
Ouais, un énorme magasin qui est en Allemagne, là, avec un truc.
Au milieu de nulle part, ça a l'air. Ouais.
Non, mais alors, vous savez quoi? Parce qu'ils sont en train de l'étendre en ce moment, le magasin. Donc, attends qu'ils aient fini tous les travaux, ça va devenir le plus grand magasin du monde.
Okay. Du monde!
Okay. Et c'est n'importe quoi. J'ai déjà vu
des photos, ça a l'air n'importe quoi.
C'était déjà n'importe quoi, et là c'est encore plus n'importe quoi. Je crois qu'ils ont pas encore ouvert toutes les nouvelles ailes, nouveaux bâtiments. Mais genre, tu rentres dans une salle immense où il y a que des accordéons. Puis après une autre salle, c'est n'importe quoi.
Moi, je veux passer vraiment littéralement un week-end entier à tester.
Mais fais-le. Il y a du tourisme. Alors c'est surtout des Allemands qui le font, mais il y a des gens qui viennent en car exprès, etc. Ils passent la journée dans le magasin, puis ils repartent.
En sandales, chaussettes.
Pardon.
Tourisme musical.
Mais complètement. En
sandales. Sandales, chaussettes. C'est des Allemands.
Bien sûr, comme tous les Allemands, allons. Bon, et puis merci à vous.
Bien sûr, le public fidèle.
Mettez un petit commentaire, une petite étoile, un petit quel que soit la plateforme.
Tapez la cloche.
Tapez la cloche en audio, en vidéo, peu importe.
Oui.
Soutenez-nous.
Bien sûr.
Si vous nous aimez, si vous trouvez ça bien. Mais si vous êtes là, c'est probablement le cas. D'ailleurs, je précise, la playlist des recommandations est disponible, Daz, pour le moment que sur Spotify.
Ce qui n'est pas la meilleure plateforme, certes, point de vue éthique.
Mais il faut payer un truc en fait pour l'avoir sur les autres plateformes aussi. Enfin, c'est compliqué.
Mais moi, je l'ai payé, mais si tu veux, je te file mon compte pour migrer les playlists.
Non, en fait, mais là, ce serait tout ça fait pour pouvoir avoir une plateforme qui sert de base et que ça synchronise sur toutes les. Tu sais, genre, il y a une playlist Spotify.
Ah oui, d'accord.
Je mets un truc dedans et ça synchronise partout.
Un genre de Linktree, quoi.
Parce que sinon, en fait, c'est s'il faut le faire à la main sur chaque plateforme. Relou.
Bref, ouais, mais après,
on parle vraiment des coulisses, ça n'intéresse absolument personne.
Après, voilà, ça demande des efforts de faire de la consommation éthique de plateforme. Certains le font, d'autres non, mais c'est pas grave.
Bon, en tout cas, la playlist est disponible si vous
Assassin.
Voulez. Vous tapez Monte le son, recommandation, c'est dispo. On a aussi toujours, il y a un petit lien si vous regardez, pour laisser un message répondeur. On n'en a pas eu, mais on en avait eu à une époque, quand on avait fait l'anniversaire. Depuis, il n'y en a pas, mais c'est toujours là. Si vous avez envie de laisser un petit message répondeur,
il faut le matraquer.
Si vous aimez la commerciale, tapez 1.
Underground,
taper 2.
Exactement.
On se retrouve dans 15 jours, du coup.
Exactement.
Pour une discussion à bâton rompu sur je sais pas trop quoi.
Et pour de vrai, on n'a pas encore calé de truc.
Allez.
Mais
ça sera chouette.
Ça sera forcément bien.
On connaît.